RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La route du Tour, de retour sur le continent après 3 jours passés en Corse. Le peloton et les suiveurs ont mis le pied sur le continent ce matin sur la Côte d'Azur à Nice, où on retrouve les mêmes conditions climatiques qu'en Corse. Un grand ciel bleu, de la chaleur et un temps magnifique pour suivre cette 4e étape aujourd'hui. Le premier grand rendez-vous chronométrique de ce Tour de France. 25 km à parcourir contre le chrono par équipe dans les rues de Nice. Autrement dit, un grand rendez-vous qu'on va suivre évidemment avec toute l'équipe de l'Intégral Tour qui a fait le déplacement, qui est sorti de son petit bateau ce matin après quelques longues heures, très longues heures de sommeil. À commencer évidemment par notre druide international qui était en pleine forme cette nuit, qui a fait quelques siestes ce matin et qui là est au sommet de sa forme. Bonjour Monsieur Guimard.
Oui, bonjour, bonjour. Je suis en pleine forme, très très belles conditions pour cette étape contre la montre par équipe, exercice très difficile et qui fait très mal aux jambes.
Voilà, tu vas nous en parler évidemment Cyril, car à l'époque où tu étais le druide du peloton, tu étais l'un des maîtres du chrono par équipe, et avec notamment la formation Renault, tu en avais gagné quelques-uns. Fred Adam est également à mes côtés, il est magnifique, il sort depuis le chien galant, il est allé se faire couper les tifs, il est magnifique. C'est vrai que tu avais besoin d'une nouvelle peau en revenant sur le continent.
Hein. Ouais, il faut aussi savoir passer incognito hein, sur le territoire quand on vient de Corse parfois. Non, on n'a aucune valise à déclarer en arrivant sur le continent. Mais les journées qui s'annoncent sont effectivement estivales. Le Tour de France est vraiment tombé à pic cette année, sorti d'un hiver, un printemps à rallonge et un printemps particulièrement humide.
Un automne à rallonge qui s'est produit.
Oui. On aura droit dans la semaine qui est annoncée à des températures proches de 30 degrés au quotidien, ce qui pourrait avoir une influence sur la suite du Tour de France.
Évidemment, et les premières étapes de haute montagne qui auront lieu le week-end prochain devraient se dérouler justement, ce ne sera pas encore la canicule, mais ça y ressemblera, avec des températures donc avoisinant et peut-être même dépassant les 30 degrés. En attendant, Fred, la course va débuter dans quelques instants. Cette 4e étape du Tour de France, je le disais en préambule, étape très importante, car c'est le premier rendez-vous chronométrique, premier des 3 rendez-vous, mais le premier est seul par équipe, et c'est un exercice très particulier où on peut perdre le tour, même si on est un formidable rouleur de contre-la-montre, car il faut aussi compter sur ses coéquipiers, et certains n'ont pas non plus les coéquipiers qui permettent de remporter le Tour de France. Donc tout le monde est un peu inquiet au départ de cette 4e étape.
C'est vrai que ça devient un cliché, on l'entend beaucoup, on ne peut pas gagner le Tour de France sur cette étape-là, mais certains peuvent vraiment la perdre, et on a des souvenirs dans l'histoire du Tour de France et dans l'histoire du cyclisme en général de coureurs et d'équipes qui ont connu l'enfer sur une journée que les coureurs qualifient de totalement stressante, encore plus qu'une longue étape à peut-être frotter, à être vigilant. Il y a là tout un cérémonial, on en parlera plus longtemps avec Cyril et probablement Luc, il y a là tout un cérémonial qui va crescendo jusqu'au départ d'un contre-la-montre par équipe, et de la tension pendant l'exercice proprement dit, parce que l'objectif c'est l'homogénéité et surtout ne pas toucher de roue celui de devant ou celui de derrière, car avec la position de chrono, l'équilibre est particulièrement précaire. Autant quand on est tout seul à se livrer à un contre-la-montre individuel, pas de souci, on peut se laisser aller à quelques dérives, autant là ça se joue quasiment au millimètre. Heureusement aujourd'hui il fait beau, ça ne glissera pas, mais on se souvient, tiens, une image qui avait marqué, il y avait les Bouygues Télécom qui étaient allés dans le champ dans un virage il y a quelques années, qui avait essemé plusieurs coureurs dans le champ. Il y avait aussi un certain Roberto Heras avec Jorge Incapi qui avait chuté sous la pluie. C'était à l'époque de la surpuissante, trop puissante US Postal. Une US Postal qui a fait paradoxalement un peu de mal au contre-la-montre par équipe dans l'histoire du Tour de France. On aura l'occasion d'y revenir. Mais les organisateurs du Tour avaient mis fin à cet exercice très télégénique, très esthétique. Après 2005, il aura fallu attendre 4 ans pour voir à nouveau le contre-la-montre par équipe revenir sur le Tour. C'était en 2009, ce sont les Astana qui s'étaient imposés. Les derniers vainqueurs de ce bel exercice, ce sont les Américains de Garmin il y a 2 ans. Garmin que l'on retrouve parmi les principaux prétendants encore aujourd'hui à la victoire ici à Nice.
Et bien justement, on va voir quels sont les principaux favoris de ce contre-la-montre. Il y en a 22, alors peut-être qu'aujourd'hui on va arriver à vous donner le vainqueur, même si Luc Leblanc l'autre jour vous a donné le vainqueur de la 2e étape, hein, Marcel Kittel. Mais là aujourd'hui, la première étape plus exactement, là aujourd'hui nous allons voir... Quels sont sont les principaux favoris. C'est l'heure des paris sur RMC.
Les paris RMC. Tour de France.
Voilà, il doit être là, normalement, notre ami Benji, pour les paris. Il est là. Bonjour
présent.
Benji.
Salut messieurs.
En pleine forme, toi aussi?
En grande forme.
Voilà, il fait aussi beau, aussi chaud à Paris que sur la Côte d'Azur, ça m'étonnerait quand même.
Non, on va pas aller jusque là, Christophe.
D'accord, bon, il n'y a pas de comparaison possible. Alors, Benji, on va revenir sur les paris. On va tout d'abord peut-être donner les cotes des différentes équipes. Quels sont les favoris? Je crois que la formation Garmin, dont Fred parlait à l'instant, est la principale favorite de cet exercice du jour.
Oui, Fred a raison, c'est bien Garmin qui est favorite de cette étape. 2,60 pour la Garmin. Derrière, Omega Pharma Quickstep 2,90, Sky à 4,80. Et il faut demander, puisqu'on est là pour tenter de faire gagner de l'argent et de faire des gros coups, il faut surtout demander au druide Cyril Guimard s'il conserve son prono qui était Radio Shack, parce que la cote est désormais à 70, 10€, 700€. Cyril, est-ce que tu conserves ce prono?
Oui, puisque je l'ai fait hier, je vais pas changer aujourd'hui. Je l'ai fait d'ailleurs par rapport à quelques statistiques depuis le début de ce Tour de France. La seule inquiétude, c'est de savoir si Andy Schleck pourra collaborer ou pas, s'il peut passer Derlet et surtout ne pas se faire lâcher. Rappelons-nous que le dernier contre-la-montre qui avait eu lieu en Vendée, les deux frères Schleck étaient très limite, très juste dans l'épreuve chronométrée par équipe. Si Andy le passe très bien, je pense que cette équipe peut l'emporter. N'oublions pas qu'elle a le maillot jaune à défendre et qu'un maillot jaune, de temps en temps, eh bien, ça donne des ailes.
Ah oui, ça rend fou parfois, Cyril, on en a parlé l'année dernière, mais ça donne des ailes de temps en temps aussi.
Voilà, hein. Oui, non, mais ça surmotive.
Très bien, alors donc, on le rappelle, Benji, la Garmin est favorite, mais les cotes sont assez proches quand même entre toutes les équipes.
Hein. Oui, c'est assez proche avec Garmin, Omega Pharma, Sky, Movistar, et après, il y a un petit fossé. Alors justement, c'est la question de certains auditeurs parieurs. Cyril vient de répondre pour Radio Shack. Il y a une grosse cote aussi sur BMC qui est à 15. C'est la question des auditeurs parieurs. Est-ce que ça vaut le coup de mettre une pièce sur Radio Shack et sur BMC?
Cyril,
sur BMC, je suis pas très fan. Movistar, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, Movistar. Ils ont fait des belles choses depuis quelques temps dans les contre-la-montre par équipe.
Ouais, tiens, il y a Guillaume qui nous écrit sur rmcsport.fr qui nous dit: je vous parie une nouvelle bouteille de vin que la Movistar va gagner. Fred, est-ce que la Movistar est ta favorite cet après-midi pour cet exercice du contre-la-montre par équipe?
Non. Il y a un élément qui devrait handicaper les Movistar. C'est l'excellent grimpeur qui est peut-être le meilleur grimpeur du peloton actuellement, la personne du jeune colombien Nairo Quintana, et celui-là c'est à prendre en considération dans un contre-la-montre par équipe. Celui-là pourrait être un poids mort aujourd'hui pour ses équipiers. Ça est un peu violent comme terme et peut-être un peu dur comme jugement.
Pas si mauvais que ça dans l'exercice du chrono.
Pas si mauvais, mais ça se joue sur de tels détails et il faut une telle homogénéité avec des disparités à gommer du mieux possible que je mettrais davantage de pièces sur des équipes avec une cohésion plus naturelle, avec des niveaux peut-être nivelés, c'est le cas de le dire, des performances nivelées. Mais là, Quintana me semble un peu trop loin de ses coéquipiers dans l'exercice du contre-la-montre.
Bon, alors, Fred, quelle est ta favorite pour cet exercice?
Sky. Sky, ils adorent, au même titre que Garmin d'ailleurs, hein, qui s'entraîne très très régulièrement de manière collective avec des vélos de contre-la-montre. Les Sky ont l'air d'avoir préparé leur affaire le plus minutieusement possible. Pour tout vous dire, l'autre jour, j'étais sur le parking de l'hôtel des Sky à Porto Vecchio. Il y avait la FDJ qui était sur ce même parking. Et alors qu'il n'y a pas de, il n'y avait aucune raison de voir les vélos de contre-la-montre sortir en Corse, puisqu'il n'y avait que 3 étapes en ligne sur l'île de Beauté, eh bien, on a vu défiler des vélos de chrono, dont celui de Christopher Froome. On a répété ça dans les moindres détails.
Alors, Fred, avant de continuer les paris, on va tout de suite aller sur la ligne de départ avec Georges Quirino, car la première équipe s'élance à l'instant même, donc ouverture de cette quatrième étape, Georges. Bonjour, Georges.
Bonjour. Bonjour à tous. Effectivement, c'est les coureurs de la formation Argo Shimano, emmenés notamment par Marcel Kittel, qui s'élance sur ce parcours de 25 km donc sur la promenade des Anglais. Ici, il y a du champier hein, sur la ligne de départ, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Toutes les voitures de suiveurs et de directeurs sportifs sont déjà là. On voit les coureurs de la formation AG2R mondiale notamment qui tentent de remonter la ligne actuellement. C'est un petit peu compliqué sur la ligne de départ, et déjà les managers qui sont positionnés à la queue leu. Là on voit notamment la voiture de la formation Saxo Bank avec Pierre Meurice qui est enfin arrivé sur le Tour de France, le mentor de Alberto Contador dans la formation Saxo Bank, qui accompagne Philippe Mauduit dans la voiture, alors que Alberto Contador, ben voilà, justement il est en train de passer devant nous, l'Espagnol, le pistolero, très concentré, mais qui, comme tout le monde, voit le centre de sa machine pour se frayer un chemin et revenir au niveau de la ligne de départ. Voilà le pistolero avec un bandage au niveau du genou droit et toujours ce pansement sur le coude gauche, mais l'Espagnol a assuré qu'il allait mieux ces derniers jours, que les sensations étaient bonnes. Il y a beaucoup de personnalités hein, aujourd'hui, Christophe, sur la ligne de départ. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco est présent. Évidemment, le maire de Nice, Christian Estrosi, est là. Il y a également le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivert, qui est là. Et Jean-Paul Belmondo également. Le cannibal Eddy Merckx qui est présent. Voilà, tout le monde profite ici du soleil de la promenade des Anglais pour ce contrôle avant par équipe. Il y a énormément de monde sur la place au Sénat, agglutiné derrière les barrières.
Oui, énormément de monde. Hein. C'est vrai qu'il y avait du monde en Corse. Peut-être pas énormément hier sur l'étape entre Ajaccio et Calvi. Mais là c'est énorme, hein, Fred. La foule présente aujourd'hui sur la promenade des Anglais. Il faut dire qu'il fait un temps magnifique, qu'il y a déjà beaucoup de gens en vacances et que les Niçois ont été sevrés d'arriver au départ du Tour de France depuis des années, et qu'aujourd'hui c'est la grande foule du Tour de France.
Hein. Oui, on se croirait sur les Champs-Élysées, non pas par le cadre, non pas par le prestige de l'étape, de cette dernière étape arrivée à Paris. Non, c'est la présence de nombreux touristes étrangers qui peuvent surprendre ici sur la promenade des Anglais. On sait que Nice, particulièrement en période estivale, est très prisée des touristes chinois, japonais, russes, anglais, américains.
Et ils se sont... entier. On vient du monde entier pour voir Nice.
C'est vrai, c'est vrai.
Sache-le.
Parfois même, on y naît. On y naît.
Ouais, bah alors là c'est réservé une élite, hein, s'il te plaît. Hein.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entendait parler à peu près toutes les langues. On se serait vraiment cru au mois de juillet sur les Champs-Élysées. Le Tour de France est davantage, on le sait bien, qu'une épreuve sportive passionnante par ailleurs, mais c'est un événement planétaire et les touristes se font un plaisir d'arborer de beaux t-shirts jaunes siglés le Tour de France, qui plus est avec le numéro 100 pour marquer le 100e Tour de France qui se déroule depuis 4 jours. C'est vrai que la grande foule s'est donné rendez-vous sur la prom, comme disent les Niçois, sur la promenade des Anglais.
La promenade des Anglais. On va finir les paris. On a oublié de donner nos paris. Fred, donc tu nous as donné l'information Sky. Cyril, tu nous as pas donné ton pari. Si, je sais plus. Non, Sky. Non,
si, Radio Shack.
Radio Shack, pardon. Voilà. Lucho, il nous avait donné Benji.
Il avait donné Sky, tout comme Bourgui, avec leur vélo, le bolide. Et puis toi, Christophe. Attention, Christophe, c'est le régional de l'étape. On l'a dit, Garmin pour Christophe, 2,80.
Très bien. Merci, Benji. On verra ça tout à l'heure.
À ce soir. Raison.
Et après la formation Argos, c'est une autre formation qui va s'élancer dans quelques instants à l'assaut de cette quatrième étape, 25 km contre la montre dans les rues de Nice, avec un magnifique passage sur la promenade des Anglais, inondé de soleil aujourd'hui, inondé également de nombreux spectateurs. Bref, on est vraiment dans l'esprit du Tour, on est vraiment dans l'ambiance du Tour aujourd'hui sur la promenade des Anglais. On revient dans un instant pour cette quatrième étape du Tour de France dans l'intégral Tour.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour qui fait donc son entrée sur le continent cette année pour ce Tour de France 2013. Tour de France du centenaire, quatrième étape aujourd'hui, première étape sur le continent et la Côte d'Azur pour accueillir ce contre-la-montre par équipe, épreuve ô combien spectaculaire qui vient de débuter dans les rues de Nice sous un magnifique ciel bleu, grand soleil aujourd'hui. Les conditions sont idéales et toutes réunies pour qu'on assiste à un grand spectacle. Nous allons revenir dans un instant sur cette course. Auparavant, Autre direct que nous allons suivre tout au long de l'après-midi, ça se passe à Wimbledon, le quart de finale du tournoi féminin entre Marion Bartoli et l'américaine Stephens. Eric Salio est sur place à Wimbledon. Salut Eric.
Salut Christophe.
Le quart de finale de Marion Bartoli qui devrait débuter dans quelques instants, oui. Si le temps le permet, parce que c'est pas le temps de la Côte d'Azur à Wimbledon cet après-midi.
Non, il y a une petite alerte puisque les cours ont été bâchés quelques minutes, mais là à l'instant on a débâché sur le central et sur le 1 et sur le 1, c'est ça qui nous intéresse puisque le cours est libre. Pourquoi ? Parce qu'on connaît déjà une qualifiée pour les demi-finales. Il s'agit de l'Allemande Sabine Lisi qui a éclaté Kaya Kanepi 6-2, 6-3. Donc Lisicki en demi, elle affrontera la gagnante de Radvanska Kanali, match pour l'instant qui n'en est qu'au tout début puisque Radvanska ne mène qu'une manche à zéro alors que les deux rencontres ont débuté à la même heure. Mais donc l'info, c'est que Marion Bartoli et Sloane Stephens sont attendues sur le cours numéro 1 d'une minute à l'autre.
Très bien, eh ben on va voir si le temps le permet, si les gouttes laissent cette partie en paix. Tu nous appelles évidemment, on va suivre cette partie en fil rouge tout au long de l'après-midi avec toi. À tout à l'heure Eric. Retour donc ici à Nice sur la promenade des Anglais où sera jugée tout à l'heure l'arrivée de cette quatrième étape du Tour de France et où est jugé également le départ car on est assez proche du départ et de l'arrivée. Fred, c'est ça l'avantage des contre-la-montre, c'est qu'on voit deux fois les coureurs, on les voit partir et on les voit revenir. C'est magnifique et en plus c'est vrai que visuellement, c'est un magnifique exercice que le contre-la-montre par équipe.
Hein. Oui, très stressant, on l'a dit, pour les coureurs, mais effectivement très télégénique, ce qui a poussé effectivement les organisateurs du Tour à remettre donc le contre-la-montre par équipe au goût du jour. En 2009, après trois éditions du Tour de France sans cet exercice-là, en 2009, les Astana avaient fait main basse sur l'exercice et il y a deux ans, l'équipe Garmin, qui est une nouvelle fois favorite cette année, l'équipe Garmin s'était imposé cette année. Eh bien, ils sont nombreux à être favoris, même s'il n'y a pas d'épouvantail. Et les équipes s'élancent de 4 minutes en 4 minutes sur ce beau parcours entre la promenade des Anglais et la plaine du Var, avec évidemment retour au bout de 12 km 500. Trois équipes se sont actuellement élancées. Les Hollandais de la formation Argos, l'équipe Omega Pharma de Sylvain Chavanel et Marc Cavendish, avec un Tony Martin spécialiste du contre-la-montre mais handicapé, ce qui fait que cette équipe Omega Pharma qui a décroché au mois de septembre dernier le premier titre de champion du monde officiel de la spécialité, c'est un tout nouveau titre mis en jeu par l'UCI.
Fred, on va t'interrompre quelques instants. Vas-y. Parce que Pierre-Yves Leroux est en compagnie d'un très grand monsieur du Tour de France.
Oui, un très grand monsieur du Tour de France qui est avec nous en direct sur RMC, Eddy Merckx. Bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre à nos questions. On parlait du contre-la-montre par équipe. Est-ce que c'est un exercice que vous avez apprécié dans votre carrière ? Est-ce que vous en avez disputé beaucoup déjà ?
Oui, on a disputé pas mal, mais seulement ils étaient fort courts, malheureusement pour notre équipe, parce que je pense pas qu'on ait été battu une fois dans un contre-la-montre par équipe. Je pense que le seul contre-la-montre qui était un peu plus long, c'est qu'on l'a fait à Paris-Nice. Et je pense que la deuxième équipe était à 2 à 3 minutes sur 35 km.
C'est un exercice très compliqué où il faut être très concentré.
Oui, je pense que surtout qu'il faut bien doser les efforts et que les plus forts font des relais un peu plus longs et pour épargner les autres. Quoi. Je pense qu'il faut surtout pas rouler par un coup parce que sinon on tue ses équipiers et c'est. Alors, il n'y a plus d'homogénéité dans les relais.
C'était votre difficulté, il ne fallait pas donner trop quand vous étiez devant.
Oh, bah, vous savez, je savais doser les efforts. Comme je vous dis, on n'a jamais été battu dans un contre-la-montre par équipe. Mais malheureusement, ils étaient un peu courts.
Eddy, quel regard vous portez sur ce début de Tour de France, sur les performances de chacun, les étapes? D'abord, quel est votre favori pour ce centième Tour de France?
Bah, je pense que le grand favori, c'est Froome, bien sûr. Mais enfin, il y a quand même pas mal d'autres concurrents. En premier lieu, Contador, Evans, Van Garderen, Rodriguez. Je pense que c'est un petit peu les principaux, mais je pense que vous savez, le tour c'est 3 semaines, il faut être là tous les jours. On peut le perdre tous les jours, mais c'est gagné quand on passe un.
Vous avez un parcours cette année qui est quand même magnifique et.
Bien mieux dessiné que celui de l'année passée, parce que l'année passée, je trouve que le parcours n'était pas bien dessiné, les cols étaient beaucoup trop loin des arrivées, et celle-ci, vraiment, je pense qu'on pourra se régaler.
Quelle est l'étape qui vous aurait le plus plu?
On va peut-être l'étape d'Alpe d'Huez, avec deux fois la montée d'Alpe d'Huez, au plus longue des étapes étaient, au mieux c'était pour moi.
Est-ce que vous avez une question, messieurs, pour Eddy Merckx,
oui,
avant qu'on
sûr,
le libère?
Bien sûr, il est belge, ni flamand ni wallon, se proclame-t-il, mais son avis sur le porteur du maillot jaune, le jeune Yann Bakelands de son pays.
Un mot sur le maillot jaune actuel de votre pays, Jean Bakelands. Vous avez été surpris de le voir déboucher là devant le peloton?
Ben, surpris, oui, parce que tout le monde était un peu surpris, mais je l'avais vu déjà au championnat de Belgique, il était vraiment bien. Il était très facile. Gagner comme ça une étape, porter le maillot jaune, c'est pour lui vraiment formidable. Le Bakelands a quand même gagné le Tour de l'Avenir, et puis il a pas eu, en une ou deux années, il a eu quelques problèmes, il a eu des opérations au genou et tout, mais quand on gagne le Tour de l'Avenir, c'est quand même qu'on a une certaine classe, et il faut aussi donner le temps aux jeunes de faire le pas vers les professionnels, et je pense qu'il doit maintenant, c'est à lui, à démontrer sa valeur dans les prochains jours.
Et puis c'est un garçon de caractère, ça c'est un autre atout.
Absolument, c'est un garçon intelligent qui a beaucoup de caractère, et je pense que il est dans une bonne équipe, il est heureux où il est, et il n'a plus de problèmes de santé, et ça c'est le plus important.
Merci beaucoup Eddy Merckx d'avoir répondu à nos questions contre la montre par équipe. Voilà Eddy qu'on va laisser se reposer un petit peu parce qu'il fait très très chaud ici. Je ne sais pas si vous avez la température extérieure, mon cher Christophe.
Ah non, mais dans le camion il fait bon, la clim est installée.
Ah c'est
bien.
Ça.
Non, ça va pour nous. On merci d'inquiéter pour nous, Pierre. C'est sympa. Allez, d'ailleurs, on m'annonce à l'instant que mon ami, notre ami Luc Leblanc a eu un petit malaise. Il n'a pas dû manger assez de madeleine ce matin.
Est-ce que vous voulez continuer avec un autre grand champion
puisque vous en êtes au grand champion.
Qui s'appelle Stephen Roche. Il est en train de faire quelques bits.
Et son fils sera tout à l'heure au départ de ce contre-la-montre par équipe. Par contre, on est en train de te perdre, là, Pierre-Yves, au niveau de la réception.
On va se rapprocher avec Stéphane Roche. Voilà. Est-ce qu'on peut aller se rapprocher un tout petit peu, Stéphane? On est en direct sur RMC. Je vous embête que vous êtes en train de faire des bises.
Stéphane qui vit à Antibes. Hein.
On va se mettre ici. Voilà, bien passé avec Stéphane. On était en train de parler avec Eddy Merckx de cet exercice du contre-la-montre par équipe. Est-ce que c'était, vous, un exercice que vous avez apprécié pendant votre carrière?
Pour moi, c'était un très bel exercice parce que aussi j'ai une épreuve que je marchais bien. Parce qu'il y a des coureurs qui ne marchent pas bien dans un contre-la-montre par équipe. Et pendant 3 jours avant, ils ne dorment pas parce que pas peur de rater un relais, pas peur de perdre à l'auteur, de peur de faire perdre leur équipe. Donc c'est un exercice qui est très spécial. Et puis bon, certains coureurs passent, d'autres ne passent pas.
C'est très esthétique pour les spectateurs, c'est très beau à voir, mais c'est très technique pour les coureurs. Voilà pourquoi il y en a certains qui sont un peu angoissés avant.
Oui, parce que par exemple, si c'est un grand coureur qui part derrière un petit coureur, il n'est pas abrité. Et par contre, si c'est un petit coureur derrière un grand coureur, quand le grand coureur s'écarte pour que le petit coureur y passe, bah, il prend plein de vent. Donc c'est très compliqué, très complexe. Pour moi, c'est un des plus beaux spectacles comme épreuve. Et je crois que la ville d'Annie, je crois qu'il peut quelque part remercier le Tour d'avoir fait un beau cadeau comme ça, parce que les hélicoptères tournent autour, on voit les paysages, mais ils voient aussi le spectacle de cette contre-la-montre par équipe en elle-même, qui est un spectacle incroyable. Puis chaque année, ça c'est meilleur parce que les vélos deviennent de plus en plus profilés, de plus en plus exceptionnels. Et de voir les nouveaux athlètes tout en ligne à 60 km/h, à 1 cm de la roue devant, c'est très beau.
Nicolas Roche, votre fils va s'élancer dans quelques minutes avec son équipe. Est-ce que vous avez pu discuter un petit peu avec lui de ce passage en Corse, par exemple, de ce début de Tour de France? Quelles sont ses sensations?
Oui, on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que je rentre pas trop là-dedans parce qu'il a ses propres entraîneurs, tout le monde autour, je ne veux pas embrouiller un peu les pistes, mais je viens pour premier renseignement, et c'est vrai que pour le moment, ça se passe bien. Il a eu une approche de Tour de France différente que d'autres années. On lui a donné 5 semaines de repos. Pas repos sans vélo, mais repos sans compétition avant le Tour de France. Et là, on a vu avant-hier, dans la finale avec Contador, quand Froome avait attaqué, il était tout de suite là, derrière Froome, à la demande de Contador. Donc, son rôle cette année, c'est différent que d'autres années. C'est pas pour ça qu'il renonce à une place au général, mais il doit être là la dernière semaine pour Contador, en essayant d'être opportuniste et de gagner une étape.
Et puis, il est un peu chez lui ici.
Oui, et puis demain, il a 29 ans. son anniversaire demain. Et puis pour l'anecdote, il y a mon fils Alexis qui va partir dans le Tour de France cadet demain matin avec Cagnes de Sommaire. Donc ils font les 30 premiers kilomètres, les 30 derniers kilomètres. Donc c'est que le bonheur.
C'est pas possible de faire du foot ou du rugby quand on s'appelle Roche pour faire du vélo.
Pas Nicolas et Alexis. Enfin, surtout Nicolas, il a fait beaucoup de football, beaucoup de rugby. Et finalement, il a tombé dans le vélo. Alexis, il a fait 5 ans de rugby. Puis quand il avait 13 ans, il dit, papa, est-ce que je peux faire du vélo? Parce que t'as commencé à 13 ans, Nicolas aussi. Maintenant, j'ai 13 ans, je voudrais faire du vélo. Ok, on y va.
On a Luc Leblanc en studio, on a Christophe Cessieux, Frédéric Adam, Cyril Guimard. Est-ce que vous avez une question pour Stéphane Roche?
Oui, une petite question pour Stéphane. Stéphane, Nicolas, jusqu'où peut-il aller dans ce Tour de France? Est-ce que tu le vois comme un potentiel vainqueur ou comme un grand lieutenant pour Alberto Contador dans les années à venir?
Est-ce que Nicolas peut être dans les années à venir un leader d'équipe ou un lieutenant surtout pour Alberto Contador?
Je pense que la raison pour laquelle il a un sacré banc Contador, c'est parce que juste il n'a jamais été dans une équipe avec un grand leader. Donc, il n'a pas vraiment eu un super apprentissage. Et là, avec Björn Riis, Saxo Bank, la logistique de Saxo Bank, et un pas en arrière.
On est en train de.
Avant, plus tard.
On est en train de perdre, malheureusement, Nicolas. On n'entend plus la liaison.
En 28 ans, presque.
Oui, on n'entend plus, on va couper. Merci en tous les cas à Stéphane. On n'entendait plus Nicolas, c'est son petit qui sera tout à l'heure sur son vélo.
Son petit de moins en moins petit, ouais, mais c'est vrai qu'il va grandir encore, c'est ce qu'était en train d'expliquer Stéphane Roche. Le contact avec les meilleurs, c'est important. Le contact avec les potentiels vainqueurs d'un grand tour, c'est fondamental. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup, ils sont nombreux, les vainqueurs d'un Tour de France, à s'être fait les dents dans la peau d'un équipier. On pense par exemple à Miguel Indurain qui était l'équipier de Pedro Delgado chez Banesto.
Cyril, toi qui regardes évidemment tous les jeunes coureurs avec beaucoup d'intérêt, est-ce que tu vois les mêmes qualités à Nicolas Roche que celles qu'avait son père, on le rappelle, vainqueur d'un triptyque incroyable en 1987, le Giro, le Tour de France et le championnat du monde? Est-ce que Nicolas est de la même veine que Stéphane?
Non, parce que au même âge, Stéphane avait déjà un palmarès très très riche et je pense que Nicolas est quand même inférieur à son père, que ce soit dans les contre-la-montre ou dans les cols. Et je pense que le fait d'aller aujourd'hui dans une équipe où il y a un grand leader est sûrement une bonne chose, parce qu'il ne peut pas revendiquer une place de leader dans une équipe Pro Tour. Donc lorsqu'on n'a pas les qualités pour être un leader de la trempe d'un Contador ou d'un Froome ou autre, à ce moment-là il faut choisir un grand leader et devenir un grand équipier.
Voilà, Stéphane Roche qui a deux fils, Nicolas donc pro, Alexis qui est cadet, on l'a entendu dans sa bouche, et un troisième enfant atteint d'une grave maladie qui lutte depuis de nombreuses années contre un cancer et qui a poussé Stéphane à s'investir ces dernières années dans la recherche. Il donne beaucoup de son temps, Stéphane Roche, et à ceux qui accusent parfois le milieu cycliste d'être un peu consanguin, d'être un peu fermé, eh bien les aléas de la vie font que parfois on peut vraiment s'ouvrir et changer de focus, comme disent les British.
Très bien, vous le savez, l'autre événement sportif de cet après-midi, c'est le quart de finale du tournoi féminin à Wimbledon entre Stephens l'américaine et Marion Bartoli la française. Eric Salio est sur place, je crois que les deux jeunes filles viennent d'entrer sur le center court, mon cher Eric.
Alors ce n'est pas le center court.
Ah bon, on nous met même pas le center court pour notre championne.
Il y avait une chance sur deux, mais les ordinateurs ont programmé le Bartoli-Stephens sur le court numéro 1, mais c'est pas plus mal, parce que hier on interrogeait Marion Bartoli, elle nous disait ne pas avoir souvenir d'une défaite sur ce cours. Donc finalement, c'est peut-être un bon signe pour la française qui va donc être opposée à une jeune américaine de 20 ans, Sloane Stephens, qui est 17e mondiale. Elles se sont jouées une fois, c'était l'été dernier à New Haven sur dur, donc on ne va pas en tirer des conclusions, même si Marion avait gagné en 3 sets, donc c'est aussi un bon signe. Mais on s'attend à une bataille assez coriace, parce que Stephens, c'est la révélation de l'année. Elle a fait demi-finaliste à l'Open d'Australie après avoir écarté Serena Williams. C'est une jeune fille très ambitieuse qui a des dents très longues et qui se verrait bien dans le dernier carré. Mais Marion, elle a déjà goûté à ce dernier carré et elle a envie d'y retourner.
Oui, ce serait bien de l'avoir retourné dans le dernier carré. Ça nous ferait un week-end ou en tous les cas une fin de semaine magnifique à Wimbledon. Merci Eric, à tout à l'heure tu nous appelles dès que le match débute. Retour donc ici à Nice pour cette quatrième étape du Tour de France contre la montre par équipe de 25 km dans les rues de Nice. C'est tout plat, pourtant c'est pas évident de trouver quelque chose de tout plat dans la région niçoise. Ça monte et ça descend avec les Alpes qui sont si proches, mais les organisateurs dans cet exercice du chrono par équipe voulaient un endroit tout plat et ils ont réussi à le trouver. On va donc faire un point sur la course car pas mal d'équipes se sont déjà élancées. C'est le Top Course et c'est avec Fred Adam.
RMC Top Course.
Avec 6 équipes qui se sont élancées de 4 minutes en 4 minutes depuis la place Masséna. Et au premier point intermédiaire au kilomètre 13, c'est-à-dire à peu près à mi-distance, 3 sont passés et l'équipe Omega Pharma Quick Step de Sylvain Chavanel et de Marc Cavendish tient la corde pour l'instant. Elle devance de 8 secondes l'autre équipe belge du peloton, Lotto Bellisol. Les Hollandais de Argos sont beaucoup plus loin. Ils concèdent en 13 kilomètres 1 minute 32, c'est-à-dire qu'Argos a clairement fait le chrono par équipe en dedans, alors qu'Omega Pharma va peut-être jouer les premiers rôles.
Ok, on va retourner sur la ligne de départ de cette quatrième étape avec Georges Quirino qui doit être là-bas à regarder les équipes qui vont s'élancer. Je crois que c'est une équipe néerlandaise qui ne va pas tarder à partir. La formation Belkin, Georges Quirino.
Exactement, la formation Belkin, mais pour l'instant on a remonté plutôt la ligne de bus pour un petit peu voir les visages des coureurs qui vont s'élancer dans quelques instants, notamment au niveau de la formation Sky. Va s'élancer à 15h51, donc dans un petit peu plus de 10 minutes maintenant. Pour l'instant, Chris Froome et ses coéquipiers sont encore tous dans leur bus, mais Dave Brailsford, le manager de l'équipe Sky, est là, bien présent. Il surveille que tout est bien en place. Vous savez qu'ici, on ne laisse rien au hasard du côté de chez Sky. Et les coureurs vont dans quelques instants faire un petit peu de home trainer, visiblement, avant de partir. Mais tout est très bien barriéré. C'est vraiment la différence par rapport aux autres équipes. On a pratiquement des vitres en plexiglas autour de l'endroit où il y a les coureurs qui vont faire le home trainer dans quelques instants. Peut-être qu'on craint pour la sécurité. En tout cas, on veut faire ça à l'abri des regards du côté de chez Sky. Alors qu'il y a quelques instants, je passais devant chez Saxo Bank qui gagne aujourd'hui le bataille de la popularité, en tout cas, parce qu'il y a énormément de monde et de supporters, notamment pour tenter d'apercevoir le pistolero Alberto Contador qui est en train de faire un petit peu de home trainer également avant de s'élancer dans quelques instants. Les deux bus sont à 100 mètres les uns des autres, hein. C'est-à-dire que Chris Froome, quand il va faire du home trainer, il va pouvoir voir son rival Alberto Contador du regard là-bas tout au loin, donc la bataille commence peut-être déjà un petit peu à distance entre les deux formations. En tous les cas, il y a beaucoup d'agitation ici sur la ligne de départ autour des bus.
Ouais, les deux équipes qui s'élanceront à 20 minutes d'intervalle, hein, puisque tu le disais, les Sky partiront tout à l'heure à 15h51, alors que la formation Saxo d'Alberto Contador s'élancera à 16h11. C'est un avantage, Cyril, de partir après l'autre pour avoir justement un temps de référence et pour essayer de calquer son allure sur le temps de référence que va probablement réaliser la Sky.
Bah, c'est un avantage, oui, lorsqu'on va arriver dans les 5 derniers kilomètres, mais il ne faut surtout pas se baser sur le temps des autres équipes. Il faut surtout assurer son propre rythme, bien assurer les relais avec beaucoup d'homogénéité, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sérénité, avec intelligence. Donc dans un premier temps, c'est la puissance collective qui doit faire les chronos. Et sur les 5 derniers kilomètres, alors en fonction des écarts, on peut peut-être essayer d'accélérer si c'est encore possible, mais surtout faisons le meilleur chrono possible sans s'occuper des autres.
Ok, surtout ne pas s'occuper des autres, penser d'abord à soi, à son équipe, à son rythme, ne pas se mettre dans le rouge, ne pas perdre tous ses équipiers. On rappelle, Fred, que c'est un exercice particulier, ils partent à 9, mais que le temps de l'équipe n'est réalisé que sur les 5 premiers.
Donc, le cinquième.
Ça veut dire qu'on peut perdre 4 équipiers en route. Bon, enfin, vaut mieux éviter d'en perdre le moins possible et surtout le moins tôt possible.
Il y a une équipe qui en a perdu un dès le premier kilomètre. Ce sont des choses qui peuvent arriver quand on a dans ses rangs un coureur diminué, comme ça doit être le cas pour l'américain Ed King qui chez Cannondale a lâché la route ses équipiers dès les premiers hectomètres. Il pointe à la 189e place du classement général. Ça veut dire qu'il a sans doute des soucis physiques aujourd'hui. Son principal objectif sera de rallier la ligne d'arrivée dans les délais.
Ben oui, nous aussi, on va essayer de rallier l'arrivée dans les délais aujourd'hui.
Ça ne sera pas simple.
Ça va pas être simple. Il est là. Il a repéré la route. C'est notre ami Dédé.
Il est où, Dédé?
Enfin, il est sur la route de temps en temps. Enfin, là, il n'est pas sur la route. Il a même été dans le bateau aujourd'hui,
ouais.
Hein, avec le gros Léon. Ça va en vrai?
Ouais.
De l'Assemblée des départements de France.
Ça va mieux une nuit.
Ça sera mieux.
Oui,
ça sera mieux de dormir un jour.
Moi, je vous ai vu partir hier.
Tu nous as vu partir.
Ouais, vous étiez toujours à quai et nous, on était déjà partis.
Oui, vous voguiez déjà sur les flots. Voilà, mais on est arrivé en même temps que vous. On vous a rattrapé dans la nuit, ce qui fait qu'on a dormi 3 heures. Mais Fred est les yeux bien ouverts, il est en pleine forme. Alors, André, Nice. Bon, au niveau de la route, il n'y a pas de souci. Hein.
C'est
bien bitumé.
C'est bien bitumé. Ça a même été refait.
Ouais.
Ça a même été refait.
Le retour régulièrement chaud. Hein.
Oui, mais bon, sur une route comme la promenade des Anglais, on ne met pas ce qu'on appelle des enduits gravillonnés. C'est un revêtement qu'on utilise aujourd'hui sur ces routes-là très fréquentées et urbaines. C'est pas du tout de l'enduit, c'est de l'enrobé. Ce sont des revêtements qui ne souffrent pas du tout de la chaleur et du passage des voitures, bien évidemment, qui sont très nombreuses sur la promenade des Anglais. Donc c'est tranquille comme parcours avec quelques petites difficultés sur la partie montante vers le kilomètre 10 avec quelques changements de direction. C'est la partie la plus haute, on doit être à 29 mètres d'altitude avant de redescendre sur la baie des Anges et en terminer sur une très longue ligne droite extrêmement roulante. Une ligne droite qui, je vous le disais, a été intégralement refaite. Ça va rouler extrêmement vite sur le final.
Très bien. Et ça a été refait pour le Tour de France, non?
Oh non, mais peut-être.
Ça aide quand même d'avoir un
revêtement tout neuf.
Bah oui,
c'est un véritable billard. C'est un véritable billard. Je l'ai emprunté tout à l'heure. C'est un billard le retour.
Ah bah oui, mais la promenade des Anglais, il y a du monde qui passe dessus tous les jours. Hein. Pas que des vélos. Hein.
Ah non.
Et voilà. Très bien, mon cher André. On vous remercie. Et à demain. Et n'allez plus sur la route. Il fait trop chaud.
Non, là,
vous pouvez traverser la promenade. Il y a une petite plage juste en dessous.
Il y a de l'eau là-bas.
Attention, faut mettre les sandales. Ça pique les galets.
Quand on n'a pas l'habitude.
Ça brûle quand il fait chaud.
Moi je suis du Nord.
Ah mais oui, ça.
C'est même
dans
pas
le
vrai.
Nord, on n'a pas ça.
C'est même
merci
pas
André, à demain. De nouvelles infos évidemment. 15h44. Allez là, sur le cours, c'est Marion Bartoli. Donc pour son quart de finale du tournoi de Wimbledon, Marion Bartoli opposée à l'américaine Stephens. Les deux jeunes filles sont sur le cours, Eric Salio.
Oui, ça a débuté effectivement sur le cours numéro 1 qui n'est pas rempli. Hein. C'est vrai que les quarts de finale féminins n'ont pas attiré la grande foule et nous tous les matins, tous les soirs, on passe dans le parc de Wimbledon où les gens campent. Et c'est vrai qu'hier soir, il n'y avait pas beaucoup de tentes pour faire la queue. Donc ce qu'approuve, c'est une journée un peu moins recherchée. En tout cas, c'est parti. Et bien parti pour Marion Bartoli qui a remporté son jeu de service. Donc elle mène un jeu à zéro dans ce quart de finale face à la noire américaine Sloane Stephens, une fille très dangereuse qui ne lâche à rien puisqu'elle a remporté 4 matchs, je crois, en 3-7. Donc c'est une guerrière, mais ça tombe bien. Marion aussi, 1-0 Bartoli. 15 partout sur le service de la noire américaine.
Merci Eric, à tout à l'heure. 15h45 sur RMC, la quatrième étape du Tour de France à Nice contre la montre par équipe de 25 km. Revient dans un instant. Les premiers temps finaux vont défiler et on va vous faire un récapitulatif dans une toute petite minute. À tout de suite sur RMC dans l'intégral Tour.
Jusqu'à 18h, intégral tour, Christophe Cessieux.
Et jusqu'à 18h, nous allons vous parler de ce contre-la-montre par équipe. Premier rendez-vous chronométrique de ce Tour de France. Rendez-vous ô combien important, évidemment, pour tous les leaders du classement général. Ceux qui veulent éviter de perdre trop de temps et ceux qui veulent en gagner, évidemment, en prévision des grandes étapes de montagne qui se présenteront dès le week-end prochain avec l'abordage du massif pyrénéen. On va donc faire un point dans quelques instants. Auparavant, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu Pro Cycling Manager, simulation officielle du Tour de France sur PC, le jeu de société L'Échappée Inferna et le livre Le Contour de nos amis qui vont vous récapituler
Serge Lager et
Claude Ménihan évidemment. Non mais je cherchais l'éditeur, je l'ai plus dans la tête. Je vais le retrouver. En tous les cas, ce livre est fantastique et on s'en sert tous les jours. Et puis surtout deux places VIP pour assister à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. jouer pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau. Envoyez le mot-clé RMC par SMS au 7 32 16. Bonne chance. Allez, retour sur la course. On est avec Pierre-Yves Leroux qui est là-bas, près de l'arrivée, près du départ. Je ne sais plus où, mais il est là. Il est bien avec nous, Pierre-Yves.
Oui, oui, je suis là, Christophe. Eh bien, je vais t'expliquer tout simplement. Je suis juste derrière l'équipe Sky qui va s'élancer, c'est-à-dire 10 mètres derrière. Ils sont tous en position. Ils vont être lâchés par les hommes qui les soutiennent sur cette rampe de départ dans quelques secondes. Je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont bien tous là. Et ils vont démarrer dans quelques instants avec Chris Froome, évidemment. Et nous, nous sommes... juste derrière eux, avec Florence Pommery, qui est la médecin du Tour de France, pour faire un petit point, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de chaleur, alors que, voilà, sous les acclamations, l'équipe Sky s'élance pour ce chrono de 25 km. Florence, il y a eu beaucoup de chaleur pendant ces premiers jours, c'est encore le cas aujourd'hui. On nous en annonce pour les jours prochains. Quelle est la santé du peloton pour le moment? Est-ce qu'il a souffert de ce passage en Corse?
Un petit peu quand même, hein. C'est vrai qu'il a fait très, très chaud. On a eu quelques petits coups de chaleur, enfin, on va dire à l'arrivée, on voit bien qu'ils sont exténués, que la chaleur a joué un rôle important, hein, dans cette fatigue, avec quelques petits malaises. Bon, ils se sont bien hydratés parce qu'ils s'hydratent toujours tout le long de la course, hein. Ils se ravitaillent, etc. Mais il n'empêche que les efforts, les cols et la chaleur un peu implacable dans les calanques, c'est vrai que voilà, on n'est pas au milieu du tour, ça s'est pas fait progressivement, c'est brutal. Donc c'est sûr que ça les fatigue un peu. Bon, là, ils vont s'adapter un petit peu, ils vont régler leur hydratation à la météo, je pense.
Est-ce que vous avez eu une grosse frayeur, comme beaucoup de spectateurs et téléspectateurs, lors de cette grosse chute dès la première journée?
Non, une grosse frayeur, heureusement. On n'a pas une grosse frayeur à chaque fois, nous, puisque... Non, parce que j'allais dire, on s'y attend un petit peu. On s'y attend quand les sprints, quand ça se termine par un sprint, quand c'est un petit peu rétréci, quand il y a des ronds-points, on a la carte. Donc on les sent s'énerver un petit peu avant, donc on s'y attend. De toute façon, la première semaine, et quand c'est pas des arrivées en col ou des choses comme ça, on sait bien que ça va aller un peu vite. Donc on s'attend aux chutes un peu collectives. Alors, c'est pas des frayeurs, hein, c'est juste que, voilà, bon, en général, ils se font. Enfin, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de règles, mais on va dire que c'est collectif, mais il y a un petit peu moins de gros bobos, puisque quelque part, ça va. Voilà, ils se freinent un peu. C'est pas dans un col, c'est pas dans une descente à 100 km/h. Alors, autant les descentes, là, j'ai peur, moi, parce que je les vois partir sur leur petit trou, là, à 100 km/h. Franchement, je suis pas très rassurée. Et donc, je me dis, si jamais ils tombent, c'est là pour peut-être un seul coursier, ça va faire très mal. Alors que quand ils sont, voilà, sur le plat, je sais pas, je suis un peu moins inquiète. Voilà. Bon, c'est peut-être à tort, hein, mais disons que je vais en avoir plus à soigner, voilà. Voilà. Mais bon, je ne suis pas particulièrement inquiète. Et puis en plus, c'est une habitude, la première semaine, très souvent sur le plat, voilà, ils se rentrent dedans, ils tombent. Enfin, c'est pas une surprise en tout cas.
Est-ce qu'il y a des garçons qui vous inquiètent plus particulièrement, là, dont vous suivez la santé sur ces premiers jours, qui sont en difficulté?
Non, pas particulièrement. Ce qu'il y a, c'est que les informations qui arrivent, on va dire, à la presse dès le début, des fois, sont. Je demande toujours de rectifier le tir en regardant mon communiqué, puisque moi, j'ai vu apparaître des choses comme contusion cérébrale qui a donné lieu à 36 millions de coups de fil, alors que j'ai jamais dit ça, et qu'évidemment que c'est pas une contusion cérébrale. Donc souvent, il faut bien regarder les communiqués que je fais derrière, parce que ça veut évidemment strictement rien dire, tout ça. Donc les communiqués sont très précis, sont même un peu médicalisés, pour que vous sachiez bien que ce sont des vrais termes médicaux et qu'on a bien pesé le pour et le contre. Donc évidemment qu'il n'y a pas eu de choses graves pour le moment. Il y a des gens fatigués. On a Johan, malheureusement, qui a une grosse gastro. Le pauvre, ça l'a complètement épuisé avec la chaleur. Voilà, il a dû quitter le tour bien à regret. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de choses bien dramatiques. Voilà, mais j'espère qu'il n'y en aura pas d'ailleurs.
Merci beaucoup, Florence Pommery. Alors que, comme on est toujours derrière la rampe de départ, Christophe, ce sont cette fois les Katusha qui vont s'élancer.
Ok, Pierre-Yves, on revient sur la course parce qu'elle est désormais lancée, Fred, avec la plupart des grandes équipes favorites qui se sont élancées, même s'il reste encore la formation Saxo à venir dans quelques instants. Mais deux des grandes favorites, sinon les deux grandissimes favorites de cette épreuve, se sont élancées, à savoir la Sky évidemment et l'équipe Garmin. C'est sans doute entre ces deux-là qu'il faudra chercher l'équipe victorieuse aujourd'hui. Hein. En tout cas, l'impression est impressionnante.
Quel train forment ces équipes? Le bleu ciel de Garmin Sharp et le noir et bleu de Sky. On attend le premier chrono référence de l'équipe Garmin, qui avait remporté l'exercice du contre-la-montre par équipe il y a 2 ans maintenant. Garmin, emmené notamment par des rouleurs de la classe de David Millard, Christian Van de Velde, Ryder Ejedal, l'ancien vainqueur du Tour d'Italie, Thomas Danielson, a pris priori, et vu l'impression visuelle que dégage l'équipe américaine Garmin-Sharp, ça devrait aller très vite. Et le chrono référence possédé par l'équipe Omega Pharma de Sylvain Chavanel est clairement en danger au kilomètre 13, qui est la mi-course, un point où va passer dans quelques instants l'équipe Garmin, tandis que la Sky en est encore que dans la première partie de ce contre-la-montre par équipe et fait pour l'instant un sans faute. Des combinaisons révolutionnaires hyper aérodynamiques, des machines de guerre posées sur des vélos qui n'en sont pas moins. On a là des purs spécialistes du contre-la-montre par équipe, que c'est beau évidemment.
Et on a l'impression pourtant, Luc Leblanc, bonjour Lucho.
Bonjour.
Qu'ils sont un peu bossus, nos amis de la Sky. Ils ont une espèce de bosse dans le dos.
Oui, je sais pas ce que c'est peut-être une.
C'est un récepteur. Les oreillettes fonctionnent également sur le contre-la-montre par équipe.
C'est pas très aérodynamique ça. Non.
Non, mais c'est je pense qu'ils ont fait le ratio entre aérodynamisme et qualité d'information.
Ils ont bien dû passer des tests en soufflerie peut-être pour savoir si ça avait un effet négatif ou positif sur la course.
Alors Lucho, tu as repéré tout à l'heure le parcours, tu es allé le faire. Il fait très chaud aujourd'hui sur le bord de
route. Ah oui, très chaud.
Justement toi aussi,
oui.
Ça va mieux.
Tout va mieux.
Attends,
oui,
on va peut-être donner un temps à l'instant.
Passage au point intermédiaire à mi-parcours pour l'équipe Garmin de David Millard et de Ryder Egedal devant De Velde. 4 secondes moins vite qu'Omega Pharma de Sylvain Chavanel, Tony Martin ou Mark Cavendish. C'est une indication. Ils ne sont pas partis comme des boulets de canon. Vont-ils se refaire sur la deuxième moitié de parcours? Réponse dans une dizaine de minutes.
Lucho, donc tu nous parlais de ce parcours et de la chaleur aujourd'hui qui baigne les rues de Nice.
Oui. Bon, c'est un parcours très plat, hein, vraiment pour les spécialistes des chronos et surtout les grands spécialistes comme l'équipe de la Sky, avec tous ces rouleurs réunis, ça va faire un temps magistral. Bon, il y a que deux petites difficultés, je dirais, ces deux virages à 90 degrés au 10e kilomètre et au 15e, 16e kilomètre. Donc c'est pas très très gênant pour les équipes, et de très très bonnes conditions météorologiques aujourd'hui pour faire un énorme temps sur ce très très beau parcours avec énormément de monde. C'est bon, moi j'aurais eu peur de ce chrono parce que déjà j'étais pas un rouleur. 25 bornes, ça va aller très très vite. Il faut partir très vite de toute façon dans ce genre d'exercice.
C'est un vrai sprint au chrono. 25
km. Oui. Enfin bon, je pense que Cyril sera d'accord avec moi. Il faut vraiment partir dans les meilleures conditions possibles en ayant fait un super échauffement le matin et juste avant le départ du chrono, avoir un petit peu la goutte de sueur dès le départ, le cœur qui est déjà un petit peu monté pour vraiment se mettre dans le rythme le plus tôt possible. Et après, embrayer de plus en plus, partir très très fort, aller à mi-parcours encore plus fort et finir pratiquement au sprint pour faire un super temps.
Ouais, Cyril.
Oui, alors oui, là tout à fait.
Cyril,
d'accord.
Cyril,
oui.
je suis désolé, mais il y a les infos. Il y a les infos 16h, pas 18h, c'est pas tout de suite. Hein. On analysera tout ça juste après, mais effectivement, c'est les infos de 16h dans un instant. Et on revient sur la route du Tour ici à Nice pour cette 4e étape du Tour de France dans quelques instants. Juste après les infos de 16h, à tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour au bord de la Grande Bleue sur la promenade des Anglais à Nice aujourd'hui pour la 4e étape de ce Tour de France. Le premier rendez-vous chronométrique de cette grande boucle. Grande boucle, rendez-vous très important. Le contre-la-montre par équipe de 25 km donc dans les rues de Nice. La course est bien lancée. On va tout de suite faire un point avec Fred Adam. C'est le top course.
RMC Top Course.
Et il reste 8 équipes à s'élancer depuis la place Masséna sous le soleil sur ces 25 km du contre-la-montre par équipe à Nice. Et 7 équipes en ont déjà terminé ici sur la promenade des Anglais. Et le meilleur temps provisoire est à l'actif des Omega Pharma de Sylvain Chavanel et Mark Cavendish notamment. Mais l'information, c'est qu'au kilomètre 13, au point intermédiaire à mi-parcours, Omega devance les formations Garmin et Sky de 4 et 5 secondes, deux des grandes favorites qui se sont cassées les dents sur la performance réalisée par l'équipe belge Omega Pharma Quickstep, championne du monde en titre de la spécialité et qui a réalisé une extraordinaire performance. L'équipe Garmin, qui avait remporté le chrono par équipe en 2011, est en train d'en terminer et va échouer à la deuxième place à 16 secondes des Omega. Garmin qui prend même seulement la troisième place derrière les Omega et les Lotto, deux équipes belges aux deux premières places du classement provisoire. L'autre information, c'est que Sky, avec Christopher Froome, avec Richie Porte, avec Ian Stannard, avec Vasil Kiryienka, avec des coureurs de premier rang, eh bien, a lâché 5 secondes au premier point intermédiaire. La machine est parfaitement rodée, mais elle n'est pas allée aussi vite que Chavanel et ses équipiers.
Cyril, c'est une surprise de voir la Sky dominer dans cette première partie d'étape, tout comme la Sky aussi.
Dominée et eux, elle est dominée.
Tout comme la Garmin d'ailleurs.
Non, ce n'est pas une surprise pour la Sky. Ils ont quand même deux coureurs handicapés que l'on a pu voir hier, d'ailleurs, même se faire soigner en cours de route.
Enfin, vous avez annoncé tous les deux que l'équipe serait victorieuse aujourd'hui.
Non, pas moi, non.
Ah non, tu veux
dire. Oui, non, mais moi j'ai annoncé maintenant en 5
secondes. Non, pas moi. J'ai d'ailleurs dit que la Sky me paraissait en dessous de ce qu'on pouvait, puisque vous avez Geraint Thomas qui est quand même le plus titré sur ce type d'exercice et surtout sur la piste. Vous avez Stannard qui est aussi une bête à rouler qui est touché. Ils ont été touchés sur les chutes. Et puis on sait que Lopez Garcia n'est pas non plus dans l'exercice qu'il préfère. Donc on a une équipe qui est un petit peu diminuée. Ça n'est pas anormal de l'avoir un petit peu, non pas en difficulté, parce que elle est quand même le troisième temps à 5 secondes des Omega, mais elle ne domine pas.
Elle ne domine pas. Tu nous as donné qui déjà, Cyril, excuse-moi.
Moi, je vous avais donné tout simplement l'équipe du maillot jaune.
L'équipe du maillot
jaune. Radio Shack. Yann Baculance.
Voilà. Le départ de la formation Saxo à l'instant même. Saxo qui a peut-être un coup à faire, justement. Profiter des blessures de certains membres importants de la formation Sky pour tenter de limiter les dégâts. Et pourquoi pas plus, d'ailleurs.
Oui, Alberto Contador qui n'est pas franchement favori à cause des grimpeurs qui sont présents dans son effectif, mais quand même chez Saxo Tinkoff, on a des coureurs capables de rythmer un contre-la-montre par équipe, avec Contador lui-même bien sûr, l'Italien Benati, le Tchèque Roman Kreuziger, Benjamin Nova, le fidèle parmi les fidèles d'Alberto Contador, mais aussi et surtout l'Australien Michael Rogers, ancien champion du monde du contre-la-montre. On a également des coureurs d'expérience chez Saxo, Alberto Contador qui devrait pouvoir tirer son épingle du jeu, puisqu'effectivement aujourd'hui Garmin et Sky n'ont pas du tout écrasé l'exercice. Et on rappelle que ce sont les Omega Pharma qui sont en tête du classement provisoire, arrivés dans 5 km pour les Sky au maillot noir de Christopher Froome.
Exactement, puisqu'ils sont déjà de retour sur la promenade des Anglais dans le sens retour. La formation Sky, on va voir s'ils parviennent à hausser le ton dans cette deuxième partie d'étape. C'est Chris Froome qui emmène actuellement de très longs relais. Il appuie très fort sur les pédales. Chris Froome, impressionnant, hein, Cyril, de voir le Britannique, grand favori de ce Tour de France, lorsqu'il prend les relais, ça amuse pas la galerie.
Non, c'est évident, il prend aussi des relais un peu plus longs, ce qui est tout à fait logique, car plus on prend des relais longs et plus on permet à ses équipiers dans l'aspiration de récupérer. On a vu tout à l'heure quelques fautes techniques au niveau de cette équipe, sur les passages de rond-point où il y avait des petites cassures, ce qui peut peut-être expliquer qu'ils aient perdu 5 secondes au premier pointage. Là, sur ce que l'on voit, on a l'impression quand même que l'équipe tourne véritablement bien. Et je vais vous donner quelques chiffres. Vous savez qu'on tourne 57,800 de moyenne pour l'équipe Quick-Step, et que le dernier kilomètre que je me suis amusé à chronométrer se fait en une minute, c'est-à-dire à 60 à l'heure.
Oui. 57,800 km.
Ce serait le record là. Il me semble, j'ai vu ce matin un chiffre nous disant quel avait été le record battu par une équipe. C'était dans, je sais plus dans quel journal. Il faut que je retrouve cette information. En tous les cas, ça roule très fort. Lucho, quand on est comme ça dans un exercice de contre-la-montre par équipe et que l'un de ses équipiers envoie très très lourd, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenter de s'accrocher par tous les moyens, se mettre bien à l'abri et tout donner. Mais
à un moment donné, quand on sent qu'on peut plus passer les relais, il vaut mieux essayer de sauter un voire deux relais, de se mettre à l'abri derrière en dernière position et d'attendre de pouvoir récupérer pour pouvoir repasser les relais normalement. Mais c'est vrai qu'il faudrait éviter pour un des 9 coureurs de se faire lâcher, parce que bon, il y a des délais respectés après au niveau de l'arrivée. Donc c'est très important d'avoir une équipe très homogène, unifiée pour un contre-la-montre comme celui d'aujourd'hui. Et puis bon, mais si c'est un coureur comme Froome qui régule le tempo et qui maîtrise l'allure, parce que peut-être que ça ne va pas assez vite pour lui, eh bien, il en profite pour mettre un petit coup de vis et ça permet peut-être aussi à ses coéquipiers de pouvoir récupérer derrière et de repasser aussi vite. Et je voulais simplement dire, là, pour les 5 secondes de retard de la Sky, ça ne veut pas dire grand-chose.
Non,
c'est bien sûr. C'est rien, parce que la deuxième partie est quand même très importante avec un vent peut-être légèrement défavorable. Donc la Sky a les moyens de faire une deuxième partie de course très très rapide.
Très bien.
Il faut faire attention quand même parce que Omega Pharma avait 4 secondes d'avance sur la Garmin et à l'arrivée ça fait 16 secondes. Dans la deuxième partie,
ils ont encore accéléré.
Quickstep a repris 12 secondes à Garmin. C'est pas évident que la Sky puisse rouler plus vite que les Quickstep dans la deuxième partie.
Le départ dans quelques instants de la formation Europcar avec évidemment dans ses rangs Thomas Vauclair et Pierre Roland, son leader, qui porte aujourd'hui le maillot à points rouges de meilleur grimpeur pour la formation Europcar. Le but, Fred, c'est évidemment de limiter les dégâts, notamment pour Pierre Roland, s'il veut encore espérer quelque chose dans quelques jours. On va évidemment repartir sur la ligne d'arrivée. Nous sommes en compagnie de Pierre-Yves Leroux qui est en compagnie d'un formidable grimpeur français.
Ouais, on avance avec Romain Sicard un tout petit peu. Romain qui vient de passer la ligne. Romain,
un coureur de l'équipe Euskaltel.
Allez, on va courir un petit peu derrière lui pour le suivre. Romain qui se met un peu d'eau sur la nuque. Romain, bon, comment vous avez vécu cet exercice?
Bah, dur, je crois que c'est un exercice agonique, c'est un sacrifice. Donc voilà, il n'y a pas d'autre mot.
Et ce début de Tour de France?
Difficile. Mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de force pour l'instant. On va voir si les autres se fatiguent un peu pour que je sois un peu mieux. Oui, mais on a fait une erreur. On a été victime d'une chute dans un virage. Donc bon, je pense qu'on a perdu du temps là-dessus et on s'est un peu déconcentré aussi. Voilà, c'est dommage.
Comment on se remet d'une chute alors?
Déjà, on attend tout le monde. Puis après, il faut se remettre tout de suite dedans, réorganiser le groupe et pas réfléchir.
Merci beaucoup, Romain, d'avoir pris un petit peu de temps juste derrière cette ligne. On est très loin maintenant de la ligne. On va revenir pour vivre en direct dans quelques instants l'arrivée de l'équipe Sky et puis essayer d'avoir les premiers mots de Christopher Froome.
Ça se rapproche.
Oui, l'équipe Sky qui est à peu près dans les temps sur le 1 km de la ligne, ça va se jouer à quelques secondes.
Ça va se jouer à quelques secondes, Fred.
Sky qui vient de perdre à l'approche du dernier kilomètre Geraint Thomas, le Gallois handicapé qui a laissé filer ses équipiers. Yann Stannard, le Grand Britannique, emmène ses 7 derniers équipiers au maillot noir et bleu. La machine est groupée. On a su faire preuve de cohésion jusqu'au bout et on va aller échouer pour quelques secondes derrière la formation Omega Pharma. 2 secondes de retard seulement pour Sky sur la ligne d'arrivée. Mais Sky est bel et bien battu aujourd'hui sur ce contre-la-montre par équipe par la formation Omega Pharma de Sylvain Chavanel, de Mark Cavendish, mais surtout de Tony Martin, l'ancien champion du monde du contre-la-montre individuel, et de Michal Kwiatkowski qui est le mieux placé au classement général ce matin. À une seconde du maillot jaune Bakerlandt, tout comme Sylvain Chavanel, mais à l'addition des places, c'est lui qui endosserait ce soir, si d'aventure les classements restaient en l'état, c'est lui qui endosserait le maillot jaune. On n'en est pas là. Kwiatkowski qui était quatrième au général ce matin, ce serait une drôle de surprise.
Pour information, je vais vous abreuver un petit peu de chiffres. Ils ont tourné en 1-2 sur le dernier kilomètre, les Sky, et ils perdent de 2 secondes. Alors que les Lotos avaient tourné en 1 minute et les Omega Pharma aussi. Donc ils ont perdu dans le dernier kilomètre.
On rappelle 57 km 800 de moyenne pour Omega Pharma, les mêmes eaux évidemment pour Sky. Vous pouvez aisément vous imaginer la vitesse atteinte par une équipe contre la montre sur le bord de mer. Vous prenez un scooter, il va jusqu'à 60, sachant qu'il y a des virages et des demi-tours.
La moyenne record de l'épreuve, c'est un chiffre que me communique à l'instant Gérald Mathieu de RMC Sport, évidemment, de la rédaction de RMC Sport. 57-32 sur 67 500 km, ça avait été établi en 2005 par la Discovery Channel.
Ouais. Une autre époque.
Une
autre époque. Mais est-ce qu'on a gardé d'ailleurs
la différence, c'est que c'était un contre-la-montre en ligne. Et qu'il faudrait savoir quelle était la force du vent.
Elle était probablement favorable, évidemment. Oui. ce vent qui compte évidemment beaucoup, mais qui n'est pas très important aujourd'hui. En tout cas, peu de vent sur le bord de mer. Plutôt favorable d'ailleurs, me semble-t-il, Cyril.
De côté.
Il vient de la droite.
Devant la ligne d'arrivée.
Hein. Il vient de la mer. Ouais. Un vent de mer qui n'amène heureusement pas de nuages aujourd'hui sur la très ensoleillée Bellanissa.
La moto RMC, on a des problèmes aujourd'hui de réception. On va retrouver Georges Quirino qui se trouve, me semble-t-il, qui attend ou qui est derrière la formation Saxo d'Alberto Contador. Georges.
Exactement, on se trouve derrière la formation bleu et jaune Saxo Bank qui est en train de rentrer vers la plaine du Var. Désormais, ils viennent de quitter la promenade des Anglais. Ils sont toujours neuf, les coureurs de l'équipe Saxo Bank, emmenés il y a quelques instants par Nicolas Roche. On l'a vu, les dents serrées qui emmènent ses coéquipiers bien en ligne là, alors que l'on arrive devant le palais Nicaïa. Alberto Contador en troisième position dans ce groupe pour l'instant, alors qu'il y a trois voitures qui suivent cette équipe Saxo Bank, avec notamment Pierre Norris qui est arrivé seulement hier sur les routes du Tour de France. Voilà, on se rapproche des coureurs de la formation de Pierre Norris, où on voit Alberto Contador désormais qui est positionné à la quatrième place. Il se remet en danseuse, il parle avec ses coéquipiers, il est à l'avant-avant-dernière position, l'Espagnol qui remonte pour encourager ses collègues, alors que un des coureurs est en train de dire qu'il n'en peut plus et qu'il va certainement laisser passer le relais derrière lui. En tous les cas, on semble distinguer que le pistolero est en train d'encourager ses coéquipiers. Là, il est au milieu de ses coéquipiers pour leur demander d'accélérer dans cette portion du parcours.
Cyril, Fred, ça vaut quoi cette équipe Saxo dans l'exercice du contre-la-montre par équipe? C'est quasiment du même niveau que la Sky, avec deux coureurs au moins. Ça serait quoi une bonne performance aujourd'hui de cette équipe Saxo?
C'est de perdre au maximum 15 secondes sur l'équipe Sky, dont on sait qu'elle n'était pas au complet, enfin physiquement au complet. On peut supposer qu'elle perdra au maximum une quinzaine de secondes.
D'accord, ce serait pas mal.
L'équipe Katyusha en termine, c'est intéressant, la formation russe d'un outsider pour le classement général, le grimpeur espagnol Joaquin Rodriguez, qui lâche sur la ligne d'arrivée seulement 27 secondes les Katyusha sur les Omega Pharma. Je dis seulement parce qu'il aurait pu redouter pire, Joaquin Rodriguez, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le départ du Tour, mais celui-là, il faudra s'en méfier dès que la route s'élèvera vers les cimes. Joaquin Rodriguez qui passe sans encombre et la Corse et le chrono par équipe.
Messieurs, on quitte la Côte d'Azur quelques instants, son beau soleil, son ciel bleu, retour à Wimbledon pour le quart de finale de Marion Bartoli cet après-midi, opposé à Neil Stephens dans le tournoi féminin. Eric Salio, Marion qui a bien débuté la partie. Hein.
Le lapsus, Christophe.
J'ai dit quoi?
Neil Stephens.
Ah oui, c'est pas le même.
Si,
il semblait bien.
Directeur sportif.
Non, crois-moi, la mienne est beaucoup plus jolie. Hein. C'est Sloan Stephens.
Sloan, Sloan et Chardin. Non, c'est pas les mêmes non plus.
Beaucoup plus joli que Neil Stephens, je confirme.
Oui. Ah bon, on lui dira. 5-4 pour Marion
Bartoli.
Peter
Sloan, plutôt. On a des références musicales incroyables, RMC. Hein.
Elle est à 2 points du 7, Marion Bartoli. Revenons à l'essentiel. 5-4 Bartoli, 15-30 sur le service de l'américaine, on va dire, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Mais c'est un moment important parce que Marion a eu des moments difficiles il y a quelques minutes. Elle a dû sauver des balles de break sur sa mise en jeu après deux grossières erreurs, mais elle a tenu bon. Et sous les yeux d'Amélie Mauresmo, évidemment, qui ne rate jamais un de ses matchs dès qu'elle est sur un tournoi, eh bien, elle est peut-être en passe de prendre un petit ascendant sur cette jeune américaine de 20 ans, qui n'a pas une grosse expérience du gazon, mais qui est une véritable guerrière, hein, comme je disais, puisqu'elle a remporté beaucoup de matchs en 3-7. Et balle de 7, voilà, on y est. Balle de 7 pour Marion Bartoli dans cette première manche. 5-4, 15-40, on va la suivre, hein, parce que
bien sûr,
c'est un instant
match important.
Peut-être
Maman
pas crucial, important. Mais c'est un moment important de ce quart de finale qui se déroule sur le court numéro 1, une enceinte, d'après ce que nous disait Marion, et on peut lui faire confiance, une enceinte sur laquelle elle n'a jamais perdu de rencontre. Ça, c'est un élément aussi important. La première balle de set est bien écartée par Sloane Stephens, qui est enchaînée avec service et revers croisé, mais il y en a une deuxième à venir. Marion Bartoli, donc, qui va
tenter le gros coup. Ce serait pas un cas, même si c'est vrai que les stats sont pas géniales pour la française. Il y a beaucoup de déchets, notamment au service, où elle pourrait améliorer le pourcentage. Mais pour l'instant, ça tient 5-4, 30-40, et ça va se jouer sur une deuxième balle de service. Ça, c'est intéressant. Sloane Stephens qui va peut-être vouloir forcer et peut-être se pousser dans le rouge. Non, en plein milieu du carré, Marion qui remet tranquillement, qui appuie. Là, Sloane Stephens est à la défense. Allez, Marion, faut y aller, faut monter. Elle monte en slice. Elle va finir avec une volée amortie. C'est fantastique. C'est presque fini. Oh là, c'est incroyable. Elle s'en sort, Stephens. Incroyable. C'était une volée amortie, malheureusement, mal exécutée de la part de Marion Bartoli, alors qu'elle était vraiment le nez sur le filet. Et c'est dommage parce que Stephens a pu défendre derrière avec un petit coup lobé. Et Marion, eh bien, a remis la balle en smash comme elle a pu. Et derrière, elle s'est fait assassiner, entre guillemets. Donc, deux balles de 7 sauvées par Sloane Stephens.
Eh oui,
dommage. C'est l'occasion qui, malheureusement, elle risque de regretter, parce que vraiment, la volée, elle était tout à fait jouable avec un peu plus de maîtrise technique. Ça devait être une volée amortie gagnante. Malheureusement, ça a été mal exécuté. Et c'est une balle de 5 partout désormais pour Stephens.
Ok, on revient vers toi dans un instant. Tu nous rappelles, Eric, dès qu'il se passe quelque chose et dès que Marion a une autre balle de 7 dans cette première manche. Indication importante, indication chronométrique importante. Fred, on se posait la question de savoir quelle allait être la performance de l'équipe d'Alberto Contador. Et on a la réponse.
Les Saxo-Tinkoff viennent de passer à mi-parcours au point intermédiaire de ce contre-la-montre par équipe qui en compte 25. Au kilomètre 13, les Saxo Tinkoff concèdent une petite seconde sur Omega Pharma et sont en avance par rapport à des équipes comme Garmin ou Sky. Les Saxo qui comptent 3 secondes d'avance sur Garmin et 4 sur Sky. Ça veut dire qu'Alberto Contador est en train de réaliser une très très belle performance, même si les Saxo viennent de perdre un élément, la personne de Benjamin Noval, le solide rouleur espagnol qui a chuté et qui est ensanglanté, qui a dû laisser filer ses 8 compagnons d'équipe, a confirmé tout de même cette bonne performance sur la deuxième partie du parcours.
Cyril, c'est quand même une très très bonne indication et une très bonne performance de la formation Saxo. Tu nous disais tout à l'heure, s'ils perdent 15 secondes, ce serait pas mal, mais là ils font mieux que pas mal pour l'instant, hein. Mi-parcours, évidemment, il reste encore la moitié de l'épreuve à faire, mais c'est bien en tous les cas.
Oui, non, c'est une très très belle performance. Ils font mieux que de limiter, hein, puisqu'ils sont en avance sur l'équipe Sky, qui est quand même l'équipe de référence pour eux. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont plus que 8 et qu'ils ont perdu Noval là sur chute. C'est dommage, mais à 8, ça, les relais vont revenir peut-être un peu plus souvent, et j'ai presque envie de dire ça rééquilibre par rapport à la Sky qui avait deux coureurs un petit peu justes.
Mais alors Cyril, effectivement ils ne sont plus que 8, mais on avait l'impression que le 9e ne prenait pas beaucoup de relais, hein. Quand on est un peu pendu, on a du mal à prendre les relais quand même. Est-ce qu'on est obligé de prendre les relais quand on est à l'agonie et qu'on est proche de lâcher la route de ses 8 coéquipiers?
Ah ben là, après ça, il faut gérer de façon intelligente entre les coureurs et en fonction des consignes qui ont été données au départ. Est-ce que l'on doit continuer à rouler quand on est pendu, comme vous le dites, Christophe, ou est-ce qu'on doit sauter 2 ou 3 relais pour pouvoir ensuite, après avoir récupéré un petit peu, redevenir efficace dans le relais? Donc ça, faut savoir quelles sont les consignes qui sont données, parce qu'on peut aussi donner quelques consignes à certains coureurs, et ça m'est arrivé de rouler moins ou voire pas du tout dans la première partie, parce que ce sont des coureurs qui ont du mal à monter en température et qu'il faut attendre qu'ils soient véritablement échauffés pour pouvoir relayer dans le final. Et je l'ai fait surtout à une année avec Dominique Garde, qui avait du mal à partir sur les 5 ou 6 premiers kilomètres, et dans le final il avait été d'une très grande efficacité.
Oui,
donc il faut savoir comment on gère. Alors, Noval, on sait que c'est un grand rouleur. Est-ce qu'on ne l'a pas peut-être mis un tout petit peu sur la réserve sur les premiers kilomètres? Il faudrait demander éventuellement à Philippe Mauduit. Mais une chose est certaine, quoi qu'il arrive, il n'est plus là, puisqu'il a fait un petit vol par terre.
Ouais, très bien, Cyril. Pierre-Yves Leroux nous attend sur la ligne d'arrivée. Il est avec un nouvel invité, Pierre-Yves.
Oui, Anthony Delaplace de l'équipe Sojasen qui en termine un petit peu derrière ses compagnons. C'est pas très grave, parce que le temps peut être pris devant. Comment vous avez vécu cet exercice, Anthony? On sait que c'est compliqué, en plus il fait chaud.
Oui, bah c'est vrai que j'étais dans un jour sans aujourd'hui, forcément par équipe c'est pas évident, donc le groupe à la mi-parcours et après j'ai donné tout ce que j'avais. De toute façon je pénalisais le groupe, donc faut mieux dans ce cas-là donner tout et se relever. se relever et se perdre du temps.
Ah, on est en train de perdre.
C'est un exercice vraiment compliqué.
Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut faire des trajectoires et surtout à chaque virage. Pas trop relancer trop fort pour pas mettre dans le rouge les gars qui sont à l'arrière. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Après c'était un chrono par équipe relativement peu technique. Donc ça allait, il était pas du tout dangereux le chrono.
Merci beaucoup Anthony de vous être arrêté juste derrière.
Merci Pierre-Yves. On va retourner sur la moto quelques instants. Georges Quirino qui se trouve toujours derrière la formation d'Alberto Contador, l'équipe Saxo, équipe surprise de cette première partie de contre-la-montre par équipe. Georges
qui ne compte plus que 8 unités depuis que Benjamin Noval a levé le pied après le chrono intermédiaire juste avant même désormais les coureurs de la formation Saxo-Bank qui sont en train de remonter vers la promenade des Anglais. Ils arrivent au niveau de l'aéroport et on a vu Roman Kreuzinger il y a quelques instants, le vainqueur de l'Amstel, Roman Kreuzinger qui se portait à l'avant et qui a utilisé un gros relais. Et c'est vrai que lorsqu'on observe l'attitude d'Alberto Contador, il n'a pas pris un seul relais depuis le début. Le pistolero, il est toujours positionné soit en avant-dernière position, soit à l'antépénultième. L'Espagnol qui peut-être en garde un petit peu sous le pied pour faire un gros relais dans le final désormais. Et on voit Daniele Benatti maintenant qui est aux commandes et qui s'écarte. Le pistolero qui remonte petit à petit alors qu'on va passer sous le tunnel, aller à gauche et revenir sur la promenade des Anglais pour la dernière grande ligne droite, on va dire, pour l'arrivée, pour désormais pour les coureurs de Bjarne Riis.
Ok, on essaiera d'analyser cette surprenante information et l'attitude d'Alberto Contador dans quelques instants. Auparavant, nous retournons à Wimbledon. Eric, la partie est une nouvelle fois interrompue. Et, oh là là, c'est dommage de ne pas jouer sur le center court parce qu'il est couvert celui-là.
Oui, c'est vrai que le match de Marion Bartoli vient d'être interrompu par quelques gouttelettes de pluie, mais c'est Marion Bartoli qui a vraiment fait le pressing auprès de l'arbitre et de la superviseur pour arrêter le match. Mais c'est vrai que là, ça s'est détérioré, les parapluies sont partout. Donc 5-4 Bartoli et 40 sur le service de Sloane Stephens. C'était un dixième jeu très très disputé. La Française a eu sa chance puisque on l'a vécu en direct, elle a eu deux balles de set dont une qui était vraiment vraiment dans ses cordes avec un peu plus de maîtrise technique. Elle serait au vestiaire avec un set d'avant, donc c'est pas le cas. Alors attention parce que sur le 1 c'est bâché effectivement entre Nali et Radwanska, mais on ne sait pas encore si les organisateurs vont prendre la décision de mettre le toit. Si jamais la journée n'est pas bonne du tout, le scénario possible, Christophe, ce serait donc fin du match Radwanska Nali, ensuite on lancerait le deuxième quart prévu sur le central et ensuite éventuellement la fin de Bartoli Stephen sur le central, mais donc en toute fin de journée.
Ah oui, ça ferait une grosse interruption pour Marion.
Exactement, ça pourrait être un scénario à envisager. En tout cas, pour l'instant, les courses sont bâchées à Wimbledon. 5-4 Bartoli, mais service Stephens égalité.
Tu vas pouvoir aller t'acheter quelques fraises à la crème et revenir tout à l'heure. Merci Eric. Nous, on revient également dans quelques instants. Il n'y a pas de fraises ici à Nice. Il y a des salades. Il y a de la salade niçoise.
Avec l'arrivée des
saladières. Et il y a surtout des équipes qui vont terminer dans quelques instants.
L'arrivée de Saxo Tinkoff dans 4,5 km. Ouais. On tourne la page de pub et on a le résultat, pas définitif, mais de très bonnes indications sur ce chrono par équipe.
Allez, on revient dans une minute dans l'intégral tour sur RMC.
Jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour et le Tour de France qui sont présents aujourd'hui à Nice sur la promenade des Anglais à l'occasion de ce premier rendez-vous chronométrique. Le contre-la-montre par équipe de 25 km dans les rues de Nice avec l'arrivée sur la promenade des Anglais. Une arrivée proche maintenant pour la formation Saxo d'Alberto Contador. On va retourner avec la moto RMC Georges Quirino pour une nouvelle impression, une nouvelle carte postale. Est-ce que Alberto Contador prend les relais et appuie pour tenter de réaliser un temps canon?
On l'a vu pour la première fois se porter à l'avant dès qu'on est arrivé sur la promenade des Anglais alors qu'il se rapproche de la flamme rouge. Désormais, les hommes de l'équipe Saxo Bank, Alberto Contador qui a pris des relais très courts mais très puissants. On est à pratiquement 68 km/h là derrière les hommes de Saxo Bank. Il a pris des relais très courts et à chaque fois qu'il s'est retiré, il a regardé ses coéquipiers un par un pour leur annoncer, en tout cas les regarder et leur adresser un message visiblement. Je ne sais pas si c'était un Vamos ou un Common, mais en tous les cas, il s'est s'adresser à eux, Alberto Contador, comme un leader auprès de ses coureurs, alors qu'une nouvelle unité vient de s'arrêter. C'est Sergio Paulinho qui en termine également, qui se relève. Encore un autre coureur, Tosato également, qui s'arrête. Ils vont terminer à 6, les coureurs de la formation Saxo Bank, avec Michael Rogers, avec Alberto Contador également qui est aux commandes. Ils sont désormais à 300 mètres de la ligne, messieurs.
300 mètres de la ligne et encore 12 secondes. Autrement, ils seront battus pour la victoire d'étape, Fred.
Avec Alberto Contador qui va mettre un point d'honneur peut-être à passer en tête. Il a l'air un petit peu court quand même, il grimace. Et ils seront battus, les Saxo Tinkoff, par la formation Omega Pharma. Très belle prestation collective avec des coureurs qui se sont totalement dévoués pour leur leader espagnol, Saxo Tinkoff, qui vient prendre la troisième place de ce contre-la-montre par équipe à 8 secondes de l'équipe Omega Pharma. Saxo Tinkoff qui vient s'intercaler donc à la troisième place, battu seulement par les Omega et les Sky et Saxo, qui ne sont séparés que de 6 secondes. Ouais. Ça veut dire que Christopher Froome a marqué un tout petit point d'avance.
Beaucoup moins important que ce qu'on pouvait craindre ou espérer, selon le camp dans lequel on se place, hein, Fred.
Classement intermédiaire sur la ligne d'arrivée, alors que 15 équipes en ont terminé avec ces 25 km du parcours niçois. Premier Omega Pharma, l'équipe de Chavanel et Kwiatkowski, maillot jaune virtuel, le polonais. Deuxième, l'équipe Sky à 2 secondes. Troisième, on vient de le vivre, l'équipe Saxo d'Alberto Contador à 8 secondes. La Garmin est à 16. Et côté français, la FDJ a concédé 41 secondes au vainqueur du jour. Sojasun réalise une belle performance à 1,09. Et Cofidis handicapé est à 1,19. Les derniers, pour l'instant, ce sont les Hollandais de Argos. Il reste 7 équipes à franchir la ligne. Et le meilleur temps est toujours à l'actif d'Omega Pharma. Omega Pharma qui est également en tête au point intermédiaire à mi-parcours, alors que la dernière équipe à s'élancer est présente sur la rampe de lancement, celle évidemment du maillot jaune Jan Bakelants, la Radio-Shack, emmenée par Jens Voigt notamment et Andy Schleck, qui n'apprécie pas forcément l'exercice chronométré par équipe.
Et on va voir combien de temps Andy Schleck va perdre aujourd'hui sur ses deux principaux rivaux, que sont évidemment Alberto Contador et Chris Froome. Chris Froome, Contador, 6 secondes d'écart à l'issue de ce chrono par équipe. Cyril, c'est plus que mieux, c'est plus que bien, plus exactement, pour Contador et la Saxo, qui ont vraiment limité les dégâts. 6 secondes, il y a rien de définitif pour Alberto Contador, évidemment.
Hein. Oui, alors je vous confirme, le tour n'est pas gagné ce soir.
Non, voilà. Voilà, mais de temps en temps, il est arrivé que le tour soit perdu, ou en tous les cas, on ait une nette indication sur le vainqueur du tour au soir du premier chrono. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui.
Oui, mais je pense que tout le monde va être satisfait. Bon, 6 secondes pour Froome, bah, c'est toujours déjà 6 secondes. Que 6 secondes de perdu pour Contador, c'est aussi une très belle performance. Il n'y a pas eu d'accident, particulièrement au niveau des leaders. Donc statu quo, j'ai envie de dire, sur ces 25 kilomètres, on n'en saura pas plus ce soir.
On n'en saura pas plus ce soir. On saura quand même que la formation Sky, même si elle réalise un temps plus qu'honorable, hein, les deuxièmes pour l'instant à 2 secondes de la formation Omega, que la formation Sky n'est pas si impériale que ça. Bon, on le disait avant ce chrono, Cyril, avec deux coureurs blessés,
hein.
c'est évidemment deux coureurs importants. Plus, hein, tu le disais tout à l'heure, Garin Thomas, c'est sans doute le meilleur rouleur de la formation, au même titre que Chris Froome. Mais bon, c'est important aussi de remarquer ça et de se dire que les Sky seront peut-être pas non plus intouchables en montagne.
Oui, alors ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que sur la deuxième partie, ce sont les Sky qui ont roulé le plus vite, hein, puisqu'ils étaient à 5 secondes au premier pointage. Ils viennent finir à 2 secondes de Quickstep. Tous les autres ont perdu du temps sur les Quickstep, hein, et bien sûr sur Sky par voie de conséquence.
Lucho, surpris par la performance des Saxo, ou par la, pas la contre-performance, mais la petite performance de la Sky?
Oui, non, je suis pas surpris de la Saxo, hein. Contador vise le classement général, vise la victoire sur le Tour de France, donc l'équipe est très bien préparée pour ce genre d'exercice, et connaissant le directeur sportif et ceux qui entourent les coureurs, ils ont certainement dû préparer vraiment très très fort ce contre-la-montre par équipe, hein, les relais, et essayer de faire comprendre à certains coureurs que quand ils ne sont pas bien, il vaut mieux rester en retrait pour mieux reprendre les relais par la suite et ne pas désorganiser l'équipe. Non, non, c'est une très belle performance de la Saxo, une belle performance aussi de la Sky quand même, malgré tout, parce qu'ils ont quand même deux blessés dans l'équipe, donc c'est quand même, ils sont partis quand même avec un petit handicap au départ de ce contre-la-montre par équipe. Donc je pense que tout le monde s'en sort bien, et comme dit Cyril, hein, le tour n'est pas gagné, mais il n'est pas perdu aujourd'hui, donc il va falloir attendre encore dans les prochains jours, voire peut-être le contre-la-montre individuel.
Importante imprécision, la formation Europcar va en terminer dans un instant, et là c'est pas la même performance ni que celle de la Saxo, ni de Sky, hein. C'est moins bon pour Europcar.
Évidemment, Europcar qui va lâcher plus d'une minute sur la ligne d'arrivée, c'est un coup dur peut-être pour Pierre Roland qui dit viser le classement général. Ils vont en terminer à exactement 1 minute 12 d'Omega Pharma, ça fait à 1 minute 10 des Sky de Chris Froome, ou 1 minute 4 des Saxo d'Alberto Contador. Pierre Roland qui a eu du mal à terminer en 5e position, et Thomas Vauclair qui a décroché dans les tout derniers hectomètres. On a eu du mal à finir à 5. On va les comprendre, les Europcar ne sont pas de purs spécialistes.
Oui, mais c'est ce que nous avions dit
exactement, ça va conforter
cette équipe si elle perdait une minute, c'était bien, quoi. Ouais. Donc on est sur cette base là, et c'est la raison aussi pour laquelle je vous disais viser le classement général lorsqu'on va perdre une minute contre la montre par équipe, et qu'on perd ensuite pour Roland en tout cas une minute par tranche de 10 km. Vous voyez, on est déjà à 6 voire 7 minutes comme disait Lucho.
Ouais. Avant de marquer un arrêt dans quelques instants, on va retrouver Pierre-Yves Leroux derrière la ligne d'arrivée, probablement au contact des formations de la formation Europcar, pour une première impression. Pierre-Yves.
Eh bien, l'impression, c'est évidemment la sueur, la chaleur, les coureurs qui sont en train de s'éponger, notamment Pierre Roland là, qui a une serviette qu'il se passe sur le visage, la bouteille d'eau, et également c'est un exercice compliqué déjà techniquement, mais là la chaleur ajoute à la difficulté. Évidemment, je pense que dans quelques secondes on va pouvoir entendre Pierre Roland qui répondra aux questions de nos confrères de la télévision. Voilà Pierre qui remet les lunettes sur la casquette, et on va voir ses premières impressions sur cet exercice, ces 25 km et ce débours de temps aussi, vous l'évoquiez il y a quelques instants. Allez, la première question avec nos confrères de la télévision.
Sur Christopher Froome aujourd'hui, vous attendiez à perdre autant?
Oui et non, quoi. Enfin, on savait qu'ils allaient être bien plus forts que nous. Après voilà, on essayait de faire avec nos moyens, c'était pas facile quand même.
On vous sent marqué là, comme tous les coureurs évidemment après un chrono par équipe, mais on vous sent vraiment marqué par... C'est un exercice spécifique et vraiment que aucun coureur n'aime, en tout cas pas vous.
Ah, c'est un bel exercice, hein. C'est beau, mais c'est très dur parce que faut vraiment être bien, être homogène et pas assez. C'est compliqué à gérer, on va dire. Mais la Corse, ça a été éprouvant, et il fait chaud, on n'a pas l'habitude, et je pense que ça va compter sur les organismes.
Vous serez mieux dans la montagne en quelques jours.
Oui, il y a quelques jours, et puis ce sera les Pyrénées.
Merci beaucoup.
Bien. Voilà, on peut continuer avec d'autres questions éventuellement, Christophe.
Oui, continuons, c'est intéressant.
Non, on savait qu'on allait perdre du temps. Après, on verra dans la montagne.
Globalement, Omega fait un super temps. Sky à 2 secondes. Contador à 8 secondes. Finalement, ce n'est pas énormément des écarts sur cette épreuve contre le temps aujourd'hui.
Non. Bah, entre les grosses écuries, voilà, c'est sûr que ça allait se tenir. Nous, on n'est pas, c'est pas notre créneau, le chrono. Dans l'ensemble de l'année, on n'est pas très bon, on essaye de s'améliorer, mais les autres aussi, donc l'écart reste le même en fait.
Physiquement, après les barreaux d'un Corse avec ses maillots à poids, comment il répond ton corps?
Oh, ça va, après, maintenant il y a quelques jours où je vais rester tranquille dans le peloton, et puis après ce sera les Pyrénées.
Pierre-Yves, oui. Si tu peux poser une question à Pierre concernant...
Oui, Pierre qui est à côté de nous. Oui.
Est-ce qu'il a travaillé spécifiquement le chrono durant l'année là?
Pierre, est-ce que durant cette saison, vous avez travaillé spécifiquement à titre personnel cet exercice?
Oui, depuis le mois de décembre, on est sur les positions du chrono, sur des... des nouveaux tissus, textiles, nouveaux casques. Donc voilà, après, ce sera plus indicatif quand je serai tout seul sur mon vélo.
Voilà, c'est là où on aura les effets de ce travail pendant l'hiver avec l'équipe AG2R qui vient de passer la ligne à Pierre Roland, ouais, qui regagne son bus.
Georges Quirino est au contact d'Alberto Contador.
En un puñado de segundos.
La máquina se ha funcionado, ¿ok?
Sí, el equipo está muy bien, está muy motivado, estamos todos muy,
très bien,
muy unidos,
très motivés.
Y nada, esperemos que sea un buen tour para nosotros.
Et on espère que ce sera un bon tour pour nous.
Voilà, seulement quelques mots d'Alberto, oui, Contador qui vient d'arriver à l'instant en sueur, comme nous d'ailleurs, hein, qui vient de courir pour arriver jusqu'au bus Saxobank. En tous les cas, il avait l'air très satisfait, le leader de l'équipe Saxobank. Ouais. Dans quelques minutes, on va essayer de vous proposer Nicolas Roche peut-être pour avoir une réaction sur le temps d'été Saxo.
Très bien, ce sera après la petite pause car il est 16h46. On revient dans un instant dans l'intégral tour sur RMC. On vous rappelle que pour l'instant, le meilleur temps est à l'actif de l'équipe Omega Pharma Lotto. La deuxième.
Omega Pharma Quickstep.
Quickstep désormais. Sky est en deuxième position avec un retard de 2 secondes. Le team Saxo d'Alberto Contador, troisième à 8 secondes. Et la formation Europcar, 14e pour l'instant, avec un retard d'une minute et 12 secondes.
La FDJ de Thibaut Pinot ne lâche que 41 secondes. C'est pas mal.
Pas mal pour Thibaut Pinot, évidemment. Allez, on revient dans un instant pour la suite de cette étape. Le maillot jaune sera peut-être porté ce soir par un Polonais au nom imprononçable qu'il s'appelle
Michal Kwiatkowski.
Kwiatkowski, entraînez-vous, on va le donner à Vincent Moscato. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
16h52 sur RMC, nous nous rapprochons du terme de cette quatrième étape du Tour de France dans les rues de Nice. 25 km contre la montre par équipe et un changement de leader. À l'instant même, Fred Adam, ce ne sont plus les coureurs précédents qui sont en tête.
Ce n'est plus l'équipe Omega Pharma, voilà, de Sylvain Chavanel.
C'est l'équipe vedette depuis le début de ce Tour de France.
Coup de chance pour pas mal des suiveurs du Tour de France. Michal Kwiatkowski, le Polonais, ne sera pas maillot jaune du Tour ce soir puisque le meilleur temps de ce contre-la-montre par équipe vient de tomber dans l'escarcelle de l'équipe australienne Orica Green Edge, déjà vainqueur de l'étape d'hier à Calvi par l'intermédiaire de Simon Gerrans. L'équipe Orica qui devance sur la ligne d'arrivée ici sur la promenade des Anglais, baignée de soleil, d'une petite seconde l'équipe Omega Pharma. La Sky est à 3 secondes, la Saxo de Contador à 9, la Garmin à 17. Orica Green Edge, invité surprise, même si pour les purs spécialistes, on pouvait un peu deviner cette performance parce que là-dedans, il y a des coureurs australiens et qui dit aujourd'hui coureur australien dit coureur formé sur la piste avec des facultés à rouler vite, longtemps et dans les roues de ses équipiers, because une formation de poursuite par équipe oblige. Ça nous donne des coureurs aptes vraiment à être très performants sur le contre-la-montre par équipe. Il reste une équipe majeure en lice, la Radio Shack de Yann Bakelandt.
Pierre-Yves ou Georges? Non, Georges, je crois, Quirino en compagnie de Philippe Mauduit, le directeur sportif d'Alberto Contador.
Avec Philippe Mauduit, directeur sportif de l'équipe Saxobank. Philippe, après ce contre-la-montre par équipe.
Ouais, c'est un sentiment un peu mitigé. On est hyper satisfait de la performance de l'équipe. Après, on a malheureusement Benjamin Noval qui percute un photographe dès le départ et qui a jamais pu nous aider, jamais pu prendre un relais et qui finit la main ensanglantée. Donc maintenant, il faut qu'on aille voir dans quel état est sa main. Mais bon, il nous manque Benjamin pour grignoter quelques secondes ici ou là. Bon, malgré tout, on va pas pleurer sur notre sort. Je crois que beaucoup nous mettaient loin des favoris du Tour pour cet exercice et finalement on est là, quoi, on est sur leur porte-bagages.
Vraiment très proche des Sky, est-ce que c'est une bonne opération? Comment on peut définir cela?
Bah, c'est en tout cas pas une mauvaise.
Tu peux encore jouer pour le classement général, tout est jouable.
Ah, aujourd'hui c'est la 24e étape, quatrième, il en reste encore quelques-unes, donc non, rien n'est joué.
C'est important après un contre-la-montre où on vous savait attendu, de montrer tout de suite un visage à la hauteur face au Sky.
Ouais, c'est vrai que c'est toujours un exercice compliqué, périlleux, un petit grain de sable et on perd tout, donc quand ça se passe bien, on est forcément beaucoup plus détendu et satisfait.
4 secondes, c'est rien.
2, 4, 6, ça va bien.
Salut Alberto, avec un comportement de leader, encourager ses coéquipiers pendant ce contre-la-montre par équipe, comment est-ce que vous l'avez trouvé?
Égal à lui-même, quand il a pu de temps en temps remettre un petit cran pour rehausser le ton d'un kilomètre heure, il l'a fait. C'est pas mal.
Vous êtes surpris au final de la compétition
de Bien. Je crois qu'on est moins surpris que beaucoup de gens. On a bossé, on a fait comme d'autres. Hein. Je crois que vous avez vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui avaient emmené les vélos de contre-la-montre sur l'île. Nous, on les avait emmenés et on a roulé tous les jours dessus. Enfin, c'est des petits riens qui, à la fin, font quelques secondes et on est satisfait.
C'est arrivé aujourd'hui qui est le gagnant.
Pour le moment, c'est Orica, hein, mais bon...
Voilà, Philippe Mauduit, directeur sportif d'Alberto Contador, la formation Saxo, il est satisfait, même s'il le disait. Il a des regrets, les regrets concernant Noval, qui est probablement l'un des meilleurs rouleurs de cette formation Saxo et qui a donc été victime d'une chute en tout début d'épreuve. Fred, c'est vrai qu'avec l'appui de Noval en plus, ils auraient peut-être pu être devant la formation Sky ce soir. Hein.
Oui, mais avec des si, on aurait mis la promenade des Anglais sur le bord de mer à Dunkerque.
Non, ça c'est pas possible.
Mais non, c'est vrai. Même avec des si. Pardon pour l'offense. Non, je pense que c'est davantage les circonstances de l'incident dont a été victime Benjamin Noval qui chagrine Philippe Mauduit. S'il était tombé, le grand rouleur espagnol, pas de problème. Là, en l'occurrence, il heurte un photographe et probablement se casse le doigt. C'est bien pour ça qu'on a vu Benjamin Noval avec la seule main écorchée, rien d'autre. C'est vrai que le gigantisme du Tour peut parfois pousser certains à des... Ouais.
C'était un peu compliqué aujourd'hui, hein, de toute façon, au départ de cette étape avec énormément de monde. Les coureurs avaient très peu de place pour s'exprimer avant de gagner le départ. Il n'y avait pas beaucoup de place. Alors c'était que pourtant, il y a quand même des endroits sur la Côte d'Azur et notamment sur la promenade des Anglais en amont de ce départ de l'étape où il y avait des avenues beaucoup plus larges. On les a fait partir. C'est pas le meilleur endroit.
C'était relativement technique en effet. Restons sur la course avec ce qui se passe encore puisqu'il reste quelques équipes à en terminer, dont l'équipe BNC de Cadel Evans et de TJ Van Garderen, mais surtout la Radio Shack de l'actuel maillot jaune Yann Bakelants ou d'Andy Schleck. Indication au passage au point intermédiaire à mi-parcours là-bas au kilomètre 13, les BMC sont passés avec 8 secondes de retard sur la formation Orica Green Edge. Les Radio Shack, eux, comptent un débours de 11 secondes. C'est-à-dire qu'a priori, la formation Orica Green Edge ne sera pas inquiétée par ces deux équipes qui pouvaient aller tirer leur épingle du jeu. Elles sont pas mal sur l'ensemble de la hiérarchie, la BMC et la Radio Shack, mais ne pourront pas a priori inquiéter et les Orica Green Edge et les Omega Pharma et les Sky qui trustent les trois premières positions en trois petites secondes. 2,5 km à parcourir pour les BMC de Cadel Evans.
Cadel Evans, le leader de cette formation BMC, ancien vainqueur du Tour, qui va donc concéder quelques secondes par rapport à Contador ou Chris Froome, enfin rien non plus de terrible pour cette formation BMC. Et donc la victoire d'étape qui devrait, Cyril, revenir à la formation Orica Green Edge, qui, je le disais tout à l'heure, est la grande vedette de ce début de Tour. Grande vedette avec évidemment l'autre jour l'épisode du bus bloqué sur l'arche, puis Simon Gerrans qui remporte son étape, et aujourd'hui Simon Gerrans qui avec son équipe va remporter cette étape et décrocher le maillot jaune. Surprenant quand même, surprenante cette équipe Orica Green Edge.
Surprenant, non, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, il y a dans cette équipe beaucoup de vieux coursiers très expérimentés et surtout formés à la poursuite olympique. Donc ça veut dire que on retombe un tout petit peu mieux, un tout petit peu plus près dans l'aspiration, et ça répété 30 fois pour chaque coureur, voire même 60 fois sur l'ensemble du parcours, ça fait des millièmes de gagner à chaque fois et dans le final. Et on s'aperçoit d'ailleurs que l'équipe Sky, qui avait tout à l'heure fait le meilleur temps sur le retour, eh bien, a été battue d'une seconde par Green Edge, alors que Green Edge a également terminé en 1-0-2 comme la Sky. Donc vous voyez, ça se bat à coups de seconde, et c'est petits millièmes de seconde qui font que eh bien, les Australiens sont en tête et à mon avis vont le rester puisque je ne vois pas qui pourrait rouler plus vite que les Green Edge dans le final.
Il est 17h sur RMC, les prochaines infos vous les retrouverez tout à l'heure à 18h car nous sommes dans le final de cette quatrième étape du Tour de France ici à Nice, entre Nice et Nice, 25 km contre la montre par équipe, la formation BMC qui vient de passer sous la flamme rouge, Fred, et qui va donc en terminer dans quelques instants et qui sera battu, c'est sûr.
Ah oui, de 30 secondes a priori car ils viennent de passer sous la flamme rouge avec 30 secondes à combler a priori les BMC qui ne sont plus que 6 avec un Cadel Evans qui n'aura mis personne dans le rouge. Les coureurs qui ont lâché prise se sont essemés seuls et ont tout donné pour leur leader Cadel Evans qui est le seul de la formation au maillot rouge et noir à arborer un casque rouge alors que tous ses coéquipiers ont un casque noir, signe distinctif d'un leader, lui qui a des chaussures jaunes, Cadel Evans, qui est de retour en forme après une année plutôt décevante l'an passé en 2012. BMC qui va tâcher d'aller limiter la casse avec deux leaders au sein de cette équipe suisse, Cadel Evans l'Australien et TJ Van Garderen l'Américain. BMC qui va en terminer avec un débours de 26 secondes très exactement. C'est la 9e place sur la ligne d'arrivée pour la formation BMC. On rappelle le classement sur la ligne d'arrivée ici sur la promenade des Anglais. Premier, Orica Green Edge, les Australiens avec une seconde, une toute petite seconde d'avance sur les Belges d'Omega Pharma Quickstep. Troisième, la Sky de Christopher Froome à 3 secondes. Les Saxo d'Alberto Contador sont à 9 secondes et sachez que côté français, la FDJ n'a lâché que 42 secondes à Orica. C'est très bien pour la formation de Thibaut Pinot.
Ouais, c'est pas mal Lucho hein, pour Thibaut Pinot et pour cette formation française de la FDJ, 41 secondes. Bon, alors hier on a parlé de Pierre Roland, on parlera un peu plus tard de Thibaut Pinot. En tous les cas, il est toujours là, au contact des meilleurs, grâce à cette performance de l'ensemble de son équipe.
Ah oui, oui, c'est une très belle performance de la FDJ parce que bon, ben on s'attendait pas du tout quand même à ce résultat-là aujourd'hui. Quand on voit les équipes Sky, Orica Green Edge, BMC et bien d'autres, ils sont quand même devant la BMC, pratiquement de, ouais, pas loin de la BMC du leader, de leur leader Cadel Evans. Non, non, c'est vraiment une belle performance et je suis très surpris parce que quand même Thibaut Pinot et toute son équipe, c'est pas des purs rouleurs et de perdre du temps de 46 secondes sur la première équipe, je trouve que c'est vraiment très très bon pour eux.
Pas mal. Nous serons d'ailleurs ce soir en direct depuis l'hôtel de l'équipe de la FDJ avec Pierre-Yves Leroux qui sera avec Marc Madiot ou avec Thibaut Pinot et Arthur Vichot, les héros de cette équipe de la FDJ, et nous parlerons de leurs ambitions sur ce Tour de France. On le sait, Thibaut Pinot est la principale chance française au classement général, même s'il ne faut pas non plus trop espérer de lui. N'espérez pas une victoire dans le Tour de France, mais pourquoi pas une victoire d'étape et un bon classement, pourquoi pas un top 5, sait-on jamais. On en parlera tout à l'heure en tous les cas avec eux. Ce sera aux alentours de 19h20, 19h30. Il ne reste plus, Fred, qu'une seule équipe sur la route de Nice, sur le retour de la promenade des Anglais. Cette équipe, c'est la formation Radio Shack, celle du maillot jaune Backlands qui va probablement perdre son beau maillot d'or.
Yann Backlands qui tout à l'heure a frôlé la correctionnelle au retour de son équipe sur le bord de mer, là-bas dans la baie des Anges. Yann Backlands qui dans un virage à gauche a frôlé le trottoir, lui et sa combinaison jaune assortie à son casque jaune aujourd'hui. On va terminer presque au complet, on va terminer à 8 au sein de cette équipe Radio Shack. Belle cohésion, belle homogénéité, mais ça a manqué de puissance, de vitesse pure simplement. À noter la prestation d'Andy Schleck, ouais, dans cette équipe. Andy Schleck qui n'est définitivement pas un spécialiste de l'effort chronométrique.
Ouais, Lucho nous faisait remarquer tout à l'heure en antenne, oui, tu n'es vraiment pas impressionné par la position d'Andy Schleck.
Hein. Ah non, le problème c'est qu'il a jamais dû travailler son contre-la-montre et on va le voir encore dans le contre-la-montre individuel. Il n'y en a qu'un qu'on voit au-dessus des autres, c'est Andy Schleck. Il a la tête relevée comme s'il avait peur du danger et de regarder bien devant lui et il passe au-dessus de ses coureurs. Sa tête est carrément, allez, je dirais 50 cm plus haute que ses coéquipiers.
Il est plus grand aussi, hein.
Oui, il est plus grand, non, mais bon, il est toujours en train d'être relevé, les bras complètement, ouais, tendus sur le guidon.
le dernier kilomètre donc pour cette formation Radio Shack, alors que dans le camp Orica Green Edge, on se congratule Fred, car désormais c'est une certitude, Simon Gerrans va tout à l'heure, dans quelques instants maintenant, revêtir le premier maillot jaune de sa carrière, en tous les cas sur les routes du Tour.
Simon Gerrans, local depuis qu'il a quitté l'Italie, lui l'Australien qui avait couru de nombreuses années pour la formation AG2R la mondiale, il s'était installé non loin de la promenade des Anglais, connaissait par cœur le parcours et a remporté à l'instant le contre-la-montre par équipe, puisque les Radio Shack seront bel et bien battus et assez largement par la formation australienne Orica Green Edge, qui compte dans ses rangs, outre Simon Gerrans, le vétéran Stuart O'Grady et d'excellents rouleurs. On a vu Simon Clark échapper hier. La Radio Shack en termine à l'instant avec 29 secondes de retard sur l'équipe Orica Green Edge. L'équipe Orica Green Edge composée de Gerrans l'Australien, du Suisse Albassini, des Australiens Clark, Goss, du Sud-Africain Impe, de Brett Lancaster, de Cameron Meyer, tout ça vient de l'autre bout du monde, de Stuart O'Grady ou du Canadien Zane Tuft. Voilà, il fallait leur rendre hommage à tous, car c'était un chrono par équipe. Victoire d'Orica pour une seconde devant l'équipe Omega Pharma. La Sky est troisième, on le rappelle, à 3 secondes, et la Saxo de Contador à 9 secondes.
Et dans les rangs de cette équipe Orica Green Edge, celui dont on parlait tout à l'heure, Neil Stephens, ancien coureur professionnel, qui n'est pas sur le cours face à Marion Bartoli aujourd'hui, hein, Fred.
Qui peut-être attend la liste des coureurs de 1998 avec une certaine inquiétude.
Ça, je savais qu'il allait le dire.
Je vous laisse.
Merci.
Va-t'en, file vite.
Allez nous renseigner les téléspectateurs de BFM Télé sur cette victoire d'étape. Donc pour la formation Orica Green Edge. Cyril, c'est pas une surprise, tu nous le disais. Bon, même si personne, évidemment, dans la Dream Team RMC n'avait pronostiqué la victoire d'Orica Green Edge aujourd'hui. Mais c'est une équipe qui a vraiment su faire la différence sur ce chrono par équipe. 25 km. Et donc, c'est vrai que la possibilité pour Gerrans de prendre le maillot jaune a sans doute sublimé son équipe aujourd'hui, Cyril. Hein.
Oui, c'est vrai que techniquement, on le sait, ils sont parfaits. On ne pensait pas que la puissance de cette équipe, que l'on n'a pas beaucoup vue hein, depuis le départ du Tour, quand je dis pas beaucoup vue, en tête de peloton ou durcir la course, à part hier où ils vont gagner l'étape, mais en attendant le dernier kilomètre pour venir faire l'effort, on l'avait un petit peu oublié, il faut bien le reconnaître. Et on était plus polarisé sur le classement général, mais plutôt Tour de France, que la prise de maillot. Ça a été une erreur pour nous, puis apparemment d'ailleurs pour tout le monde, ce qui ne nous pardonne pas d'ailleurs. Mais belle victoire aujourd'hui de cette équipe, qui prouve que lorsqu'on a un bagage technique venant de la piste, on est capable de faire de grands numéros.
Très bien, nous revenons dans quelques instants, toujours en direct depuis la promenade des Anglais, sur la ligne d'arrivée de la quatrième étape de ce Tour de France, qui a donc vu la victoire de la formation Orica Green Edge, équipe australienne qui s'impose avec une seconde d'avance sur les Omega Pharma Quickstep. L'équipe de Chris Froome, le grand favori de ce Tour de France, termine 3e à 3 secondes. L'équipe de Contador est 4e avec un retard de 9 secondes, ce qui donne 6 secondes d'écart seulement entre Chris Froome et Contador, à l'avantage du Britannique par rapport à l'Espagnol. Mais le maillot jaune ce soir est australien. Il se nomme Simon Gerrans, vainqueur d'étape sur les routes Corse, et qui aujourd'hui connaît un second bonheur sur les routes du continent, sur les routes de la Côte d'Azur. On y revient dans un instant avec une analyse complète de cette étape avec toute la Dream Team. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour.